Radio FMR. Nous sommes le samedi 22 mai 2010. Nos programmes pour cet après-midi. À 13h, du sport, les résultats sportifs en direct des vestiaires et de l'infirmerie. À 15h, du reggae avec Zorma Farai. Et à 17h, FMR, cette antenne à Booster FM sur les 89.1 MHz. Mais dans l'immédiat, voici le festival que vous attendez tous.
Précédemment, dans le supplément week-end.
Une usine qui s'appelle la prison, quoi. Affaire du criminel, à broyer de l'esprit humain, à torturer, à... On n'est pas d'accord avec ça, on a vu des gens souffrir, tu vois, être détruits complètement, prendre du Lexomil, laisser la télé allumée tout le temps parce qu'ils ont vécu juste avec la télé, être complètement détruits.
Radio FMR présente. Le supplément week-end. Le magazine des cultures geeks. Avec du sport. Ultimatum. Das Reich. Et la participation exceptionnelle de JB.
Oui, il fait beau, il fait chaud. Il y a 15 jours, c'est vrai que c'était un épisode qui était un petit peu triste, hein, Thomas. C'était pas,
oui.
C'était l'interview quand même de ma mamie
Ali Mahmoudi.
Ali Mahmoudi, c'était pas quelque chose d'extrêmement drôle. Aujourd'hui encore, ça va être un petit peu, je vais dire, plus dans le ton de la polémique. En tout cas, ça fait plaisir parce que après cette interruption de 15 jours, il fait beau. On a un soleil radieux, il est magnifique. Et toi, de même, je suppose.
Ah ben oui, écoute, ici aussi il fait super beau et puis en plus c'est aujourd'hui que sera dévoilé le palmarès canois.
Ah toi, toutes les starlettes, toutes ces filles magnifiques et tout ça, bref, que du bonheur. En fait, t'as plusieurs chroniques que tu vas faire par téléphone, puisque je crois me souvenir que tu m'as dit que t'avais de la revue de presse et...
Petit film avec des armures.
Voilà, et d'autres petites curiosités. En attendant, ben voilà, du sport, bonjour, comment vas-tu?
Ça va.
Quoi de neuf de ton côté, toi, oh Grandus?
C'est ça, prends-moi au dépourvu, hein. Direct.
Allez, on va quand même le dire, il y a quand même une programmation monumentale et fabuleuse sur TMC lundi soir.
Entre autres, ouais, entre autres. Mais il n'y a pas que ça, hein, de toute façon, quoi. Parce que bon, tu sais très bien que moi j'aime bien faire des petites thématiques à propos des titres de films, à propos des chaînes qui les programment également. Et on aura également des films dont je connais, des films programmés à la télé dont je ne connais même pas le réalisateur ni les interprètes.
Ah bah
rien que le titre suffit à vous allécher, d'ailleurs, avec un titre où il y a de la bouffe dedans, quoi. Généralement, ça allèche bien les gens, quoi.
Bref, que du bonheur. On va faire l'agenda tout à l'heure, savoir samedi 19 à la librairie Gilbert Joseph. Dans le cadre de Rio Loco, il y aura Corinne Bottès et Antoine Kahnemeyer qui sont en fait les animateurs du fanzine Bitter Comics d'Afrique du Sud. Je pense que ça devrait vous plaire. Enfin bref, en attendant, Thomas, pour la partie revue de presse avec si je me trompe, Mad Movies.
Oui, alors attends, je suis en train de sortir mes notes parce que sur la croisette je suis un peu bousculé. Bon, attends, ça va être plus simple. Attends, oui, excusez-moi.
Bonjour. Oui, en fait, je suis en studio.
C'est pas vrai. Non, mais on arrive à envoyer un homme sur la lune et on n'est pas capable de foutre Thomas à Cannes.
Non, mais oui, j'avais cru. C'est le principal. Bon, c'est pas grave. On aurait pu. Il fallait des visuels avec des palmiers et puis du petit coin d'air. Alors attends, je reprends mes notes puisque vous avez laissé ici.
On n'a pas les moyens de faire un fond bleu ici. Tu le sais bien, les mêmes verts.
Allez.
À la limite, on a un fond en bois. Ça suffit largement.
Il y a un truc qui manque. Ah, le casque. Voilà, ça
va. Ah, largement mieux. Après tout, on fait de la radio.
Alors, aujourd'hui, on commence quand même si je ne suis pas à Cannes, par un hors-série de Mad Movies consacré à mon sens, l'un des réalisateurs, allez, osons-le, les plus surestimés actuellement, qui s'appelle Tim Burton. Alors moi, la semaine dernière, j'ai pris le train et je me suis dit, j'ai rien à lire, donc qu'est-ce que je vais voir. J'avais entendu dire, il me semble que Mad Movies avait fait un hors-série sur James Cameron. Alors moi, je me suis dit, tiens, on va aller acheter ça. Et puis à la place, je vois Tim Burton. C'est quoi cette arnaque? Je me suis dit, bon, allez, on va l'acheter pour le principe. Malgré tout ce que je pense de Tim Burton, allez, on va voir. Et puis, aux surprises, je regarde l'édito. Et en fait, ils disent exactement la même chose que moi. C'est-à-dire que c'est, ils disent, c'est un hors-série passionnant, puisque Tim Burton, première partie de sa carrière, jusqu'à grosso modo Ed Wood, il faisait des chefs-d'œuvre sur chefs-d'œuvre. Et depuis, il sort aux caricatures, il est tombé un peu dans la facilité, il nous livre des films qui sont l'antithèse absolument des propos qu'il tenait dans les films, les premiers films qu'il avait fait. Et c'est exactement la même longueur d'onde sur lequel j'étais, donc j'étais vachement content. Et du coup, en fait, il décrypte la carrière de Tim Burton, pas seulement au niveau des films, mais aussi les parallèles avec sa vie perso. Par exemple, quand il a perdu son père et qu'il est devenu papa, il avait fait Big Fish, Charlie la chocolaterie, il a voulu plutôt s'orienter vers du film pour gamins. Après, il avait été un peu échaudé par certaines expériences professionnelles, surtout après La planète des singes, donc il avait voulu riposter avec un autre film un peu plus léger, etc. Ils épargnent pas le gars. Donc ils sont super fans de Burton, mais quand il s'agit de souligner là où les films sont un peu faibles, ils le disent. Donc c'est quand même un hors-série super objectif. Et bon,
c'est vrai que c'est pas évident, parce que Tim Burton, c'est vraiment le chouchou en général, surtout de la presse française d'ailleurs, plus que de la presse américaine.
Ah oui, non, mais là, quand il y a Tim Burton qui a été président du festival, t'as vu, il y a toutes les stars qui se sont succédées en disant « Oh oui, oui, Tim Burton, c'est mon chouchou, nanana. » Alors c'est quoi que vous aimez chez lui ? Ah, Edouard aux mains d'argent. Mais vous savez qu'il a fait une dizaine de films depuis. Ouais, il dort en main d'argent. Donc voilà. Et puis évidemment, la carrière de Burton est indissociable de deux autres gars qui l'ont accompagné dans ses films. Donc son acteur fétiche Johnny Depp et son compositeur attitré Danny Elfman. Donc il souligne aussi le fait à un moment donné qu'il s'était perdu de vue, puisqu'il s'était brouillé pendant Mars Attacks, pendant L'étrange Noël de Monsieur Jack avec Danny Elfman, puisque Tim Burton avait passé juste 10 jours sur la production du film. Il avait fait les croquis préparatoires, mais c'était surtout Henry Selick qui avait réalisé le film et Danny Elfman qui avait porté à bout de bras toute la partition musicale. Justement, il s'était brouillé avec Burton parce que, oui, bon, t'es gentil, tu es le co-réalisateur, enfin, c'est toi qui récupères les lauriers et finalement, t'as pas foutu les pieds dans la production. Donc, du coup, il s'était brouillé, c'est pour ça que Burton avait fait appel à Howard Shore pour le score de Ed Wood. Et ensuite, Elfman était revenu aux manettes de ses films pour justement Mars Attacks. Et puis, à l'exception justement de Sweeney Todd, où c'était adapté d'une comédie musicale et donc c'était l'auteur de la comédie musicale qui avait fait la musique. Donc voilà, c'est plein de petites anecdotes pour savoir d'où vient l'univers déjanté de Burton, sur son enfance à Burbank, sur son passé d'animateur un peu frustré chez Disney, puisqu'on le forçait à faire des trucs tout mignons.
Alors allez, Taram, allez, c'est mignon, un chaudron.
Oui, le chaudron magique.
Il est magique.
Roxy et Rookie.
Oui, oui.
Oui. Voilà, et donc voilà.
Ouais, mais Pee-wee, c'était déjà plus une production non, Disney.
Pee-wee,
hein.
c'est un de ses projets à lui, je crois. Pee-wee Big Adventure.
Oui, oui, mais c'est produit par Disney.
Oui, hein. Alors Disney, alors c'est ce que souligne le magazine, c'est qu'ils disent Disney avait décelé l'univers particulier de Burton, donc ils se sont dit, tiens, il faut absolument faire quelque chose avec, mais ils savaient pas comment s'en épatouiller, parce qu'ils savaient pas comment les vendre et comment les sortir. Donc ils avaient assuré à Burton que les courts-métrages allaient être diffusés avant des longs-métrages estampillés Disney, mais ils savaient pas trop comment les foutre. Alors du coup, comme c'est pas correctement distribué, bah finalement, et L'étrange Noël de Monsieur Jack par exemple, ils avaient pas comment su le distribuer après, mais comme ils sont super fiers depuis, parce que Burton a été adoubé par toutes les critiques du monde entier, donc maintenant ils le ressortent en 45 DVD, c'est la méga édition collector, donc voilà. Donc Burton, c'est quand même une carrière tout en paradoxe, et c'est souligné dans ce hors-série que j'ai trouvé finalement assez intéressant.
Bon, en général, les hors-série Mad Movies sont pas écrits avec des pieds. Hein.
Ah ouais, mais c'est exactement ce que je pensais.
On est loin de l'imprécision de Télérama.
Oui.
En plus là,
c'est exactement ce que je pense, c'est-à-dire que pour eux le sursaut qualitatif depuis Ed Wood, c'était Sweeney Todd, et moi c'est exactement ce que j'avais dit au micro. Alice au pays des merveilles, alors là moi je suis pas trop d'accord, parce qu'ils le descendent, ils disent c'est vraiment de la merde infâme, enfin moi je trouvais ça intéressant même si c'était pas son meilleur. Donc voilà, c'est s'il y a quelqu'un qui veut me le prendre. Burton, allez, t'avais les pépites dans les yeux tout à l'heure.
Ouais, j'en connais une qui va m'en vouloir pour pas la ramener, tiens.
Donc c'est le je rappelle la référence. Oui,
hors série,
je suis
hors
pour
série,
la paix dans les ménages.
non, vas-y, vas-y.
Allez, alors c'est le hors série de Mad Movies dans la collection réalisateur, et c'est consacré cette fois-ci à Tim Burton. Si vous voulez vous taper les autres hors série de Mad Movies, alors je les ai pas tous en tête, il y a Peter Jackson, il y a John Carpenter. Mais Cameron, je l'ai loupé. Oui, je crois qu'il y a Cameron, il y a Carpenter et il y a pas Cronenberg, mais il y a quelques réalisateurs dits fantastiques. Mais je crois qu'il est pas dedans dans le catalogue, donc il faudra aller voir sur le net éventuellement. Voilà, et on rappelle le prix en kiosque qui est un peu cher, mais si vous adorez Burton, donc c'est sur la couve, c'est 7,90€ il me semble. Voilà.
Alors il faut préciser une chose, c'est que des fois on a de très charmantes visites dans le studio et il n'y a pas que ce qu'il y a sur la poitrine, il y a aussi un cerveau derrière, heureusement je veux dire. Voilà, c'est parce que les blagues misogynes.
Et voilà.
Super, super.
D'abord, il faudrait que tu te présentes.
Suzanne, stagiaire à Éphémère.
Voilà, qui est venue donc voir l'émission la plus bordélique de la prog musicale de Radio Éphémère. Mais surtout, ce que tu disais à propos de Tim Burton, qui était.
Oui, j'avais lu, je sais plus où, qu'en fait, Tim Burton vit avec son actrice fétiche, donc avec qui il est marié. Et en fait, ils vivent dans deux maisons mitoyennes. Mais séparément, enfin, c'est-à-dire qu'ils sont ensemble, mais chacun de leur côté. C'est ça qui est un peu un paradoxe, quoi.
Et donc l'enfant, il est emmuré.
Ça, l'histoire ne le dit pas.
Non, t'as une niche au milieu. Il prépare un mougli. Soyons affectes, soyons affreux. On va, avant de partir vraiment dans l'infect et l'affreux, moi je voudrais parler d'une bande dessinée qui est une initiative qui est plutôt intéressante. C'est un collectif qui s'appelle Des Bulles pour l'UNICEF, l'été des héros donc, est le nom de cet album. Ils sont là-bas les bouquins. Et c'est édité par les éditions Des Bulles. Je crois que c'est édité spécialement, je veux dire, pour cela. C'est un album qui en fait est une présentation de différentes séries, c'est pour ça que c'est un collectif. Il y a une sacrée collection de héros dedans. On y retrouve le petit Spirou, Garfield, Titeuf, Captain Biceps, Rantanplan, Snoopy, Yakari et aussi Pico Bog, Lou, les Nombris, les Légendaires, Cédric, Kid Paddle et bien d'autres. On peut le voir comme un coup double en fait, à la fois une occasion de soutenir l'UNICEF qui est une organisation au sein de l'ONU qui œuvre pour l'alimentation, les soins, l'éducation et les droits des enfants dans bien des pays défavorisés, et aussi comme un catalogue de bandes dessinées à faire découvrir à vos enfants, petits cousins, plein de séries assez intéressantes et trop géniales, ce que vous allez finalement leur offrir comme album 15 jours plus tard en général. Le montage des bandes dessinées présentées y est suffisamment large pour que justement le charmant gamin y découvre différents graphismes, types d'histoire, catégories d'humour. Je doute que tout le monde arrive à apprécier les bidochons d'une certaine tranche d'âge. Ou Pico Bog, mais Captain Biceps, il y a plus de chance ou ce genre de choses.
Bah c'est clair que passer de Garfield à Mafalda au Nombril, Bully Bill et je sais pas qui aussi comme dessin particulier, t'as même une préface du chat.
Ouais.
Donc c'est vrai que ça brasse pas mal d'univers quand même.
C'est plutôt intéressant. En tout cas, il y a une chance que le charmant bambin ou l'insupportable peste découvre une série qui va lui plaire pendant les 250 km de voiture qu'il amène chez ses grands-parents.
C'est quand qu'on arrive ?
Voilà, exactement. De quoi le calmer, c'est idéal. Et prévoyez sur votre GPS une liste des librairies BD en chemin au cas où il lise trop vite.
Enfin, je veux pas semer ma merde, mais il est fortement déconseillé quand même de lire quand on est en voiture.
Hein. Mais t'as tort, ils sont malades.
Mais il y a certains qui sont pas malades.
C'est génial.
J'en connais plein qui lisent en voiture.
Ça dépend, c'est vachement difficile pour les yeux. Quoi.
Ah d'accord.
C'est ça, c'est le problème. Quoi.
Un texte qui rappelle à la fin, par contre, un petit dossier qui rappelle la charte des droits de l'enfant et la mission que mène l'UNICEF depuis 60 ans. Pour cela, c'est un très bon bouquin, justement, pour cela, en guise de soutien. Des bulles pour l'UNICEF, l'été des héros, c'est au prix plutôt normal, je veux dire, hein, pour environ 64 pages. C'est un collectif, donc, édité par les éditions Des Bulles. C'est un one-shot, je pense. Éditer un bouquin comme ça, en général, c'est plutôt facile. Il suffit de réunir les fonds et ensuite avoir les droits. Et ben là, tout le monde y a mis les mains à la pâte. Il y a la Caisse d'épargne qui a financé la publication du bouquin, les auteurs qui ont cédé leurs droits et, d'après ce que j'ai compris, surtout des bénévoles derrière qui s'en sont occupés, c'est-à-dire des graphistes sur la partie éditoriale et tout le reste.
Et comment ils ont choisi les planches
Justement, ça a été un appel qui a été fait auprès du syndicat des dessinateurs, auprès des éditeurs et tout ça, puisque derrière, c'est l'attaché de presse. Hein, celle qui s'occupe de la com, c'est l'attaché de presse du festival d'Angoulême. Donc je pense qu'ils ont ce qu'ils veulent derrière, suffit de proposer. Et les gens ont bien voulu, quoi. C'est plutôt intéressant, je veux dire. C'est signe qu'en fait il sort que la semaine prochaine. On va peut-être entamer les bandes dessinées avec des chroniques un petit peu plus sérieuses entre guillemets. On va commencer par un long destin de sang qui est une histoire complète en deux tomes, sortie aux éditions 12 bis, scénarisée par Laurent Frédéric Bollet et dessinée par Fabien Beduel. Du sport, peut-être tu connais Laurent Frédéric Bollet.
Oui, oui.
C'est l'ancien chef des sports, si je me souviens bien, à France Télévisions. Enfin, au début, et ensuite il a monté une start-up d'information sportive sur le net.
Non, là tu te trompes.
Si,
non, c'est Patrick Chen.
C'est Patrick Chen. Merde, Patrick Chen, ouais. Je me suis trompé. Ils sont tous partis en général dans les start-up.
Non,
donc,
non,
je me suis
planté. On a même été sollicité ici à Radio FMR hein, pour recevoir des programmes de Patrick Chen.
D'accord. Laurent Frédéric Bollet est un scénariste de bande dessinée, ça c'est beaucoup moins connu, qui a commencé depuis une vingtaine d'années. Et il fait soit du polar, soit de la science-fiction. Là, il est parti dans complètement autre chose avec Fabien Beduel. C'est aux éditions 12 bis. Donc, et c'est un épisode de la Grande Guerre qui est passé dans le langage courant. Quand on parle de la grosse Bertha, c'est pas forcément du foot. Même si, en fait, le nom de cette canonnière immense n'était pas celui-là. En résultat, restait le même. Au printemps 1918, alors que la Grande Guerre s'est embourbée dans des tranchées à 180 km de là, Paris se fait bombarder par des obus. Quelques-uns, mais la prouesse technique et les dégâts physiques et humains sont si spectaculaires qu'ils frappent les esprits. Dimanche 31 mars 1918, un obus tombera dans un square public et fera un mort. Cette scène, on ne le verra pas dans le premier tome. En fait, on repart de 24 heures en arrière et on suit 8 personnes. L'une d'entre elles sera la victime de ce bombardement. Sauf qu'on est prévenu, il n'est pas certain que le décès soit vraiment dû à l'obus. Et pour cause, chacun des 8 protagonistes a toute la raison d'être tué. Soit par règlement de compte, soit par jalousie, soit par raison d'état. On a une institutrice qui fait imprimer ses tracts anti-guerre, l'imprimeur qui n'aime pas les impayés, un acteur qui va repartir sur le front, un député qui trompe sa femme, un soldat en prison, un journaliste obsédé par une compagnie morte au front, un général à la retraite qui n'aime pas que l'on parle de son passé, et les autres, je vous laisse les découvrir. Alors, qui sera la victime et qui pourrait être tenté de maquiller le coup? La police secrète qui en a marre des agitateurs, l'armée française qui a mené une expérimentation de gaz sur ses propres soldats, aimerait pas que l'histoire s'évente un peu trop. Ou encore, qui sait, la pègre ou une femme éconduite, hein, après tout, on est en France. Une bonne BD sur un fond historique donne envie de se replonger dans les bouquins d'histoire. Si en plus elle est un excellent polar, elle en devient quasi hypnotique. Un long destin de sang est une parfaite réussite de ce côté-là, justement. On a vraiment envie de découvrir le deuxième tome. On est happé par l'histoire depuis le début. Et même si on connaît l'histoire, parce qu'on a lu le résumé en quatrième de couverture et tout ça, quand même, on est dedans et c'est un vrai bonheur. Laurent Frédéric Bollet au scénario, Fabien Beduel au dessin. Un long destin de sang. La première partie de cette histoire complète en deux tomes donc est sortie chez 12 bis.
C'est marrant, on sent bien l'influence de Mignola sur le graphisme.
Je suis d'accord après coup avec toi, mais il n'y a pas justement le côté épais de certains détails et tout ça. Il a voulu travailler vraiment avec les clairs-obscurs. On sent vraiment de ce côté-là l'influence des impressionnistes allemands justement le côté polar qu'il a voulu donner sur le roman noir. C'est très bien amené de ce côté-là et ça donne vraiment envie. Il y a plein d'idées de cadrage et de scénario. Luce, t'avais quelque chose à rajouter, non?
Ouais, ça fait penser à Mignola, mais enfin c'est quand même c'est moins brut,
moins anguleux et moins
ouais, c'est un peu plus travaillé quand même,
moins radical.
Quoi.
Ouais.
Quel est l'imbécile derrière qui a dit en même temps c'est pas difficile?
Ah bah t'as qu'à essayer.
Non, je l'ai fait à Nicolas Sarkozy, une source proche de l'Élysée. Oh, un tel, il m'emmerde vraiment.
Il se murmure dans les milieux autorisés.
Ouais. 12h20, vous écoutez Radio FMR, c'est le supplément week-end numéro 240. Déjà, oula, oh. Et la bande dessinée suivante, à mon avis, va me valoir une fatwa sur la gueule. Alors je tiens à prévenir d'entrée que quand même cette chronique, je l'ai rédigée très rapidement. Pourtant, j'ai vraiment été happé par le bouquin. Je l'ai lu de bout en bout. Je l'ai lu deux fois tellement que c'est bluffant. Et d'un autre côté, vous allez me dire, j'y connais pas grand-chose en religion musulmane encore moins, et en politique internationale, je suis un petit peu réducteur. Alors c'est pas évident quand même d'aborder ce livre-là. Mohamed Sifaoui en a signé le scénario, même si au départ c'est ce qu'on appelle un biopic dans le milieu du cinéma. Mohamed Sifaoui est un réfugié politique algérien qui fait des livres, des enquêtes et des films principalement sur le terrorisme, puisque lui-même avait échappé d'un attentat islamiste de peu. Il écrit dans Marianne, il a aussi découvert des petites particularités du journalisme à la française, puisqu'il a dénoncé les bidonnages à gauche à droite. Il a aussi fait un reportage dans Le Droit de Savoir sur la délinquance asiatique. Bref, c'est quelqu'un qui aussi est très controversé sur pas mal d'éléments, mais d'un autre côté c'est quelqu'un qui sait de quoi il parle quand il parle justement des fous de Dieu. Philippe Berkovici, c'est le dessinateur entre autres des Femmes en Blanc, série extrêmement connue sur les infirmières dans Spirou, humoristique. Il a aussi fait Léonie des Spoutnik, qui est une bande dessinée qui est assez peu connue, qu'il a faite entre 91 et 93 sur l'URSS, c'était en 89 et 92 à peu près, sur l'URSS en plein déclin. Il a fait plein de séries et là ils ont fait ensemble, tous les deux, Amanine et Djad atomisé. C'est aux éditions 12 bis, et vous allez m'excuser pour cette chronique de toutes les fautes de prononciation que je vais faire, puisqu'on va parler quand même de la politique intérieure iranienne. Tout comme Nicolas Sarkozy croquait déjà deux fois dans la même collection, bah, le président iranien Mahmoud Ahmadinejad a connu une ascension très rapide à la tête de son pays, motivée par une soif de pouvoir assez flagrante. À la différence de Nicolas Sarkozy, les fuites internes sont nettement plus rares. Faut dire que le président iranien tient d'une main de fer son pays. Il est de la branche ultra dure des religieux conservateurs. Là, on est quand même, vous voyez, dans le décile qui est vraiment le plus hardcore. Hein. C'est lui-même un fou de Dieu, persuadé qu'il est Al-Mahdi, c'est-à-dire le 12e imam chiite, descendant de Mahomet, qui convertira l'ensemble de l'humanité. Enfin, en même temps, de ce qu'il en restera. Il est particulièrement motivé par la construction de l'arme atomique, fait à tuer et torturer systématiquement tous ses adversaires politiques ou tous ceux qu'il considère comme impurs. Les sunnites, les homosexuels, les femmes qui ne sont pas voilées, les artistes ou ceux qui demandent plus de démocratie. Et il a autant de raisons d'atomiser Israël que les royaumes sunnites. Bref, quand il parle de convertir, c'est convertir non pas dans la religion musulmane, mais dans une certaine secte chiite, je veux dire assez intégriste, et avec une lecture, on va dire, radicale du Coran. Le portrait est donc à charge, mais c'est très difficile finalement de faire autrement. Sifaoui et Berkovici commencent leur histoire en 1956. l'errance du Shah d'Iran qui a réussi à faire prospérer son pays grâce au pétrole, qui a européanisé la société civile et modernisé, la vie politique de son pays, et qui est en butte contre le clergé chiite. Il manquait en plus un dauphin, ce qui l'a amené à divorcer plutôt que de prendre une seconde épouse, comme la tradition lui aurait permis. En fait, de divorce, le Shah a répudié sa femme. D'un autre côté, pressé par ses amis américains, le roi finit par accepter l'idée d'une police secrète, ce qui lui permettrait de mieux surveiller les opposants trop remuants. C'est dans ce contexte que deux destins vont émerger. Celui de Ruhollah Khomeini, qui va devenir Ayatollah un petit peu par hasard en fait, et Mahmoud Sabourdian, qui changera son nom car il le trouve un peu trop juif. Sabourdian, voilà, c'est devenu donc Ahmadinejad. Ce qui va définitivement mettre le feu aux poudres, c'est la redistribution par le Shah des terres aux modestes paysans qui appartenaient principalement aux très gros propriétaires terriens, dont le clergé chiite. Bref, le décor est planté et à partir de là, eh ben, il y aura la révolution de 1977-78 l'Iran est devenu un royaume extrêmement dur et religieux, mais en fait c'est plus vraiment un royaume hein, à ce stade, c'est faut pas l'oublier, c'est une démocratie. Entre guillemets, je veux dire, mais ça c'est une analyse qui ne convient qu'on ne peut que me reprocher. Pas mal d'éléments sont romancés dans Ahmadinejad atomisé. Par exemple, le père du président, Ahmadinejad, est imaginé comme un pleutre, vantard et superstitieux. Alors là, ils en ont fait un coiffeur qui est persuadé qu'il est poursuivi par la police secrète juste parce qu'un client se fait arrêter par la police, par la sécurité intérieure du Shah et tout le reste. Bon, là, on peut le reprocher peut-être au livre, mais c'est pas évident peut-être de recueillir les éléments. D'autres sont totalement réels, comme l'étrange marchandage proposé par l'État français à propos de Roménie, au Shah d'Iran. Vous savez, là où il est, c'est une banlieue qui n'est pas très 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 bien famée et tout. Là, on se dit, ah ouais, tradition d'asile, de terre d'asile de France. Voilà, on comprend mieux pourquoi le Shah il s'est enfui, il est parti au Mexique, si je me souviens bien, il est parti de sa propriété dans le centre du Mexique. D'autres éléments sont encore plus hallucinants, par exemple comment les Iraniens ont motivé leurs soldats dans la sanglante guerre Iran-Irak qui a duré quand même plus de 10 ans, à savoir en faisant fabriquer par millions à Taïwan des clés en leur disant « elles sont censées ouvrir les portes du paradis quand vous vous ferez exploser la gueule ». L'ascension politique d'Ahmadinejad est relativement tardive dans le bouquin. Il est devenu maire de Téhéran en 2003, je rappelle quand même qu'on commence en 1956, en bousculant un peu la démocratie iranienne grâce à un coup de main des miliciens Basiji, c'est la milice religieuse, hein, et ravit la place de la présidence face au rénovateur Rafsanjani en montrant sa foi au guide suprême Khamenei. C'était archi simple. Rappelez que Khamenei a fait une promesse sur le lit de mort de Roménie, donner à l'Iran l'arme nucléaire pour éclairer le monde des mécréants. Non, cette phrase elle est de moi, hein. Je vous rassure de suite. Pour nous qui sommes des décadents occidentaux, ignorants de la politique intérieure iranienne, ce livre est très intéressant. Car elle raconte justement pourquoi l'Iran, qui était une nation que nous considérons comme plutôt ouverte à la modernité dans les années 60, est devenue aujourd'hui entrer dans la ban liste officielle état terroriste du Facebook de la Maison Blanche. On découvre justement pourquoi la révolution intégriste a eu lieu, l'animosité forte du peuple iranien contre les États-Unis et toute la difficulté qu'ont eu les multiples premiers ministres du Shah pour faire taire les opposants sans les transformer en martyrs. Parce que c'est quand même des fous de Dieu, donc si jamais on les verrouille trop, c'est pas bon, si jamais on les tue, c'est pas bon, si jamais on les exile... Bref, on vous laisse imaginer quand même tout le dilemme que ça a été. En fait, le président iranien Mahmoud Ahmadinejad, c'est un peu notre Frédéric Lefebvre national.
Oula.
Il parle tout doucement, sort d'incroyables énormités et des propos incroyablement violents, est suivi par des gens très puissants qui croient pouvoir le manipuler, et il voit la lumière divine dans le moindre projecteur pointé sur lui.
C'est juste qu'il y en a un qui a vraiment mené une guerre et qui compte bien écraser toute volonté de changement de son peuple. Voilà. Quoi, comment ça, on en est déjà à 14 procès. Alors, je vais rappeler dans ce cas les références du bouquin. Mohamed Sifawi et Philippe Berkovici, Ahmadinejad atomisé, c'est aux éditions 12 bis. Il a fait plusieurs interviews que l'on peut retrouver. Je crois qu'il y en a une sur RTL et il est passé sur France 5 dans C'est-à-dire. Honnêtement, quand on lit ce livre, on rit, mais on rit vraiment jaune. On sent que les auteurs sont amusés à faire des petites blagues, des trucs comme ça. Mais il rappelle quand même que Le Pen veut faire ami-ami avec Ahmadinejad. Note, après avoir rencontré trois fois Saddam Hussein, il n'y a pas de... Hein, ou encore qu'un humoriste noir parisien qui a plutôt mal tourné après avoir fait des blagues avec un juif se fait actuellement financer par la République iranienne.
Hein ? Ah bon ?
Ah, tu le savais pas ?
Non.
C'est un peu, je veux dire, là on est là, on fait... Ah ! Ah ! C'est un bouquin, franchement, à mon avis, 12 bis n'a pas tort de les sortir comme ça.
12 bis, c'est eux ceux qui avaient fait la face cachée de Sarkozy ?
Exactement. C'est pas un tort, non, c'était Vent d'Ouest.
Ah, bon.
Je me plante justement.
Non, parce que
c'est dans la même collection, c'est dans le même format.
Oui,
ouais.
Parce que là, c'est en fond. Après Sarkozy, Karcher, voici Ahmadinejad et atomisé. Bon, on sent qu'ils reprennent un peu les recettes pour la couve en tout cas. Mais après, c'est vrai que le dessin, ça n'a rien à voir. Mais bon, je fais des raccourcis moi aussi.
Ça fait des raccourcis, mais honnêtement, à le lire, on se prend une claque. Et quand on consulte les notes à la fin pour discerner ce qui est romancé ou ce qui est vrai. Il y en a certains, on se dit ah ouais, d'accord, ok. Bref, c'est un bouquin qui fait un petit peu mal et il y a une raison derrière, donc voilà. Il est disponible dans tous les kiosques et non, on n'a pas peur de se faire excommunier après l'avoir parlé, quoi. Voilà. Et les pubs, c'est quand elles veulent.
Ouh, les pubs!
Je crois qu'en fait, ils ont réussi à me viander le PC, ouais.
Ou alors, il n'y a pas de pub.
Si, si, si. Oui, non, mais on pourrait s'en passer, effectivement, mais moi, j'y tiens. Je promets que là, quand même, c'est un rapport de bug que je vais devoir faire parce que celui-là, je l'ai jamais vu de bug. Je sais pas comment ils ont fait avec le gestionnaire de documents de Gnome pour me le planter comme ça. C'est pire que conquis. Du sport, vite, enchaîne sur autre chose du coup.
Ouais, sur quoi ?
Du kawaii ?
Oh ouais, du mignon ! Je suis sûr que t'as un truc qui est très soft et
non,
tout.
Non, non, mais moi, ce que je voulais, c'est faire l'intro comme on fait d'habitude, mais avec un fond musical que j'avais choisi. Donc,
d'accord, vas-y.
Et qui allez. Est juste là, tu vois, là, c'est la pochette, tu vois.
Allez, suis le doigt.
Voilà. Non, voilà. Non. Celui qui est au-dessus, là, tout au-dessus, là, tu vois. Là. Voilà, et tu mets le numéro 4.
Numéro 4.
Arrête de jouer au loto, là.
Non, parce qu'on se...
Pas,
on... on se le fait comme d'habitude, quoi, tu vois, en faisant la quatrième de couvre. Comme oui. ça m'évite.
Allez hop!
Good. Dans un monde où les super-héros sillonnent le ciel ou rôdent dans la nuit, quelqu'un doit faire en sorte qu'ils ne dépassent pas les bornes. Et ça, c'est le boulot de Billy Butcher, du petit Yugi, de la crème, du français et de la fille. Les petits gars de la CIA, une équipe de gens dangereux. Ça tombe bien, puisqu'ils luttent contre la force la plus dangereuse de la Terre, les Gugus à super pouvoir. Certains super-héros doivent être surveillés, d'autres doivent être contrôlés. Et certains parfois doivent dégager. Et c'est là qu'interviennent nos petits gars.
Bon, j'enlève les réglages voix à couille maintenant, voilà.
Bon, vous l'aurez reconnu, c'est le pitch de
The Boys.
Ouais.
Tome 6.
Ouais.
Scénarisé par Garth Ennis, dessiné par Darick Robertson. Quand faut y aller est le titre de ce tome numéro 6 et qui renvoie d'ailleurs aux références culturelles des auteurs, Darick Robertson entre autres. Vu que il y a deux références majeures, c'est la culture pop américaine par le biais d'un film qui est devenu un film culte grâce à certaines scènes. Je vous expliquerai un petit peu plus tard. Et surtout, le titre, Quand faut y aller, qui est en fait la deuxième phrase de la chanson qui a été popularisée par les Kingsmen, Garage Band du début des années 60, Louis Louis. Louis Louis. We gotta go now, we gotta go now, c'est quand faut y aller. Voilà, ok, c'est la traduction. D'accord. Chanson qui d'ailleurs n'a pas été écrite par les Kingsmen, mais par un certain Charles Berry, qui n'a rien à voir avec Chuck Berry, mais qui était un bluesman dans les années 40.
Ça n'a pas été aussi repris par.
C'est le morceau qui est repris par pratiquement tous les groupes.
Louis Louis.
C'est le riff tellement simple que les gens qui débutent pour faire un groupe de rock'n'roll, eh ben ils jouent forcément ce morceau parce que c'est super simple et puis que les paroles, t'as pas besoin de te faire chier tout le temps.
Anna, The News.
Alors, The
Boys. En tout
Boys.
Cas, c'est vachement bien parce que tu commences la chronique de The Boys par le biais musical.
Ah bah oui, bah écoute, c'est parce qu'il y a des références justement, ouais. Quoi. Bah, c'est hyper référencé.
Bon, ça explique peut-être le choix des couleurs de la pochette, enfin de la couverture peut-être.
Ouais, pas forcément. Alors bon, là, ils vont s'attaquer à un autre groupe de super-héros. On avait déjà eu le Super Seven, c'est-à-dire les meilleurs, ça c'était dans le premier. Puis après, d'autres, il y avait le Mandarin, enfin bon, des héros un petit peu solitaires qui faisaient penser un petit peu à Batman, si on se rappelle bien, quoi, d'accord. Et ils sont allés faire un tour en Russie pour sauver...
Glorieux plan quinquennal.
Voilà, glorieux plan quinquennal.
Le petit boudin d'amour.
Et tout ça. Et dans celui-là, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, c'est comme d'habitude. Alors, on a toujours les mêmes gimmicks, hein, à savoir que c'est la directrice adjointe de la CIA qui vient voir Billy Butcher pour lui donner un petit peu de boulot, un petit peu de grain à moudre.
Et accessoirement, autre chose.
Et accessoirement. Et alors là, c'est là que le gimmick change un petit peu parce que d'habitude, bon, bah, Billy Butcher a rendez-vous dans son bureau et donc. Ouais. Se passe ce qui doit se passer par devant comme par derrière. Et là, alors je rappelle quand même que The Boys est réservé à un public très mature.
Oui, averti.
Oui, oui, très averti. Hein, ça, y a pas de problème. Mais là, justement, pour ne pas avoir à subir, on va dire, les outrages de Billy Butcher, elle lui donne rendez-vous dans un petit café, donc en public.
Ah.
Mais rassure-toi, ils finiront quand même dans les chiottes. Alors. Dans cet épisode, eh bien, il s'agit pas d'une mission d'éradication, plutôt d'une mission de surveillance et d'infiltration. Et là, on a appris dans le numéro 5 que petit Yugi, eh bien, avait pratiquement faisait entièrement partie de l'équipe, hein, parce que bon, il avait développé certains pouvoirs spéciaux qui lui permet, parce que dans les premiers tomes, bon, s'il était au feu de l'action et s'il réussissait à faire quelque chose, c'était à son corps défendant, faut bien le dire, hein,
oui.
C'était, bon, il faisait pas exprès, puis bon, quand même, il résistait à des.
C'était assez radical aussi.
Oui, radical, mais bon, comme les autres. Hein.
Ouais.
Et là, bon, bah, ok, ça y est, il a adoubé, c'est-à-dire que bon, bah, c'est un membre à part entière du groupe, et donc il va faire, avoir une petite mission d'infiltration à faire, de surveillance dans un autre des groupes de super-héros, les super-héros qui sont les plus lucratifs en fait, c'est-à-dire ceux qui ramènent le plus de pépettes à cette super multinationale qu'est Vought American. Hein, ça c'est pour les gens qui sont déjà au courant.
Ouais.
Et bon, il faut savoir que ces petits groupes de super-héros, eh bien, sont répartis selon des zones géographiques aux États-Unis. Alors il y a ceux de la côte est, la côte ouest et tout, et il y a bien entendu des fights entre ceux de la côte est et la côte ouest, tout rapport avec le hip-hop américain n'est pas complètement fortuit, n'est-ce pas, hein, ça c'est bien sûr. Gartenis développe bien le thème à travers les différents dialogues et tout quoi, en enfonçant bien le couteau dans la plaie quoi, en ce qui concerne justement ces espèces de fight débiles et stupides, hein.
Et complètement scénarisé au départ, et même si après ça a tourné à l'arme lourde, hein.
Ouais. Et ce qui est assez intéressant en fait, c'est que cette mission de surveillance alors c'est assez rigolo parce que comme il est chargé d'infiltrer le groupe, bien sûr il doit se déguiser en super-héros. Et alors ça donne un truc assez
incroyable. Attends, avec le moule burn spandex.
Ouais, justement. Et les burnes sont bien moulées, quoi. Il y a pas de problème, tu vois tout.
Et le slip sur le pantalon.
Voilà, ouais. Ouais. Parallèlement à ça, quand il a un temps, temps off, bien sûr, petit Yugi, il se retrouve avec Stella qui fait partie du Super Seven. Mais ni l'un ni l'autre ne savent qui ils sont réellement.
Sauf qu'il y a un petit cliffhanger dans le tome précédent.
Oui, mais ça continue là, c'est-à-dire que on en découvre un petit peu plus. Quant aux fausses identités qu'ils s'attribuent chacun par rapport à l'autre, hein, donc alors c'est assez rigolo parce que petit Yugi qui dit je me fais passer pour un agent de police d'assurance et tout, ah bon, je croyais que tu voulais être détective et tout, non détective, elle m'aurait posé trop de questions, tu comprends, c'est tout intéressant. Des petits trucs comme ça quoi. Et donc en infiltrant donc ce groupe de jeunes super-héros qui en fait sont un petit peu dans l'antichambre des groupes de super-héros, qui vont au fur et à mesure,
jeunes sont
très jeunes, voilà, c'est les jeunes quoi, en fait, donc ils font plein de conneries, picolent et tout, ils regardent des films porno et tout, branlette collective, enfin des trucs sympathiques quoi, demeurant quoi,
tout ce que Stanley a oublié,
oui. Mais et c'est justement là qu'intervient justement la deuxième référence culturelle pop, c'est que y a cette fameuse scène où ils font une super teuf et où ils sont tous en toge. Toge party, les gars! Ça ramène à American College, le fameux film avec John Belushi. Et tous les autres, c'est assez réjouissant de toute façon. Le seul bémol, en fait, c'est pas vraiment un bémol parce qu'on disait, on en est au tome 6. À chaque tome, on a une histoire complète. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir lu les tomes précédents pour comprendre ce qui se passe dans le bouquin. Ça se termine par quoi? Par un à suivre. Dernière page, donc. C'est à suivre. Non, c'est pas celle-là, quoi. This one, à suivre, on se dit ah merde, et là on va être obligé d'acheter le tome suivant.
Et là t'es frustré.
Ah ouais, et là t'es vraiment frustré, parce que dans tous les autres...
Ah, attends, Xavier, tu peux ouvrir le micro de Suzanne.
C'est marketing, c'est...
Ah, comme c'est marketing, non.
Faut donner envie.
Non, c'est bien joué, parce que justement on a 5 tomes auparavant où on n'a pas besoin de vraiment prendre le premier pour comprendre.
C'est vraiment des arcs complets qui ont été réunis en France. C'est vrai c'est vrai qu'aux États-Unis ça sort par fascicule de 16 pages, mais en général ce que l'on a en France c'est les histoires complètes, c'est vraiment les arcs complets que l'on a, parce que ça correspond à une saison, si je me trompe. Aux États-Unis ça correspond à 3 mois.
Globalement c'est ça. De toute façon, au départ c'est 4 histoires qui sont réunies en une seule, qui forment donc ce que disait Xavier, un arc complet. Sauf que là, il va falloir attendre, parce que ça s'avère un petit peu plus compliqué, un petit peu plus ardu, et que ils ne résolvent pas les choses dès la fin du tome 6. Donc il va falloir attendre le tome 7. Mais ça veut dire qu'il y aura un tome 7, les gars. C'est ça la bonne surprise. Je rappelle, The Boys, Garth Ennis, Darick Robertson, quand faut y aller, c'est le tome 6. Et c'est chez Panini Comics, distribué aux États-Unis par Dynamite Comics, vu que DC
n'en voulait plus.
Vu que c'était un petit peu trop trash. Vraiment trop, quoi. Alors
Puis bon, après ça, et sinon ils allaient finir dans DC versus Mortal Kombat 2 après. Alors.
Ouais, non. Surtout pas. C'est pas le genre de la maison.
Midi 43, vous écoutez Radio FMR 89.1, c'est le supplément week-end numéro 240. Désolé la régie finale. Mais on la passe quand même.
La Grainerie et le Lido présentent le festival Caravane de Cirque du 13 mai au 13 juin 2010 à Balma, Toulouse et 12 autres communes. Plus de 20 compagnies locales, nationales et internationales seront présentes lors du festival pour vous faire découvrir ou redécouvrir les arts du cirque. Rendez-vous sous les chapiteaux de la Grainerie et du Lido pour un mois consacré aux arts du cirque, pendant lequel les habitants s'approprieront cet art populaire revisité. Grimpez dans la caravane de cirque et laissez-vous surprendre par des spectacles inattendus, burlesques ou poétiques. Le festival Caravane de Cirque à Balma, Toulouse et 12 autres communes, c'est du 13 mai au 13 juin 2010 en partenariat avec Radio FMR. Retrouvez la programmation complète du festival sur le site www.la-grainerie.net ou sur www.circolido.fr. Papa loves mambo. Papa loves mambo. Mama loves mambo. Mama loves mambo. Don't play the rumba and don't play the samba, 'cause Papa loves mambo tonight.
Le 24 juin 2010, les abattoirs de Toulouse fêtent leurs 10 ans avec Radio Éphémère. Une journée particulière, des émissions en direct, un plateau d'artistes, des animations, une soirée live musicale et projection vidéo. Les abattoirs fêtent leurs 10 ans. Un musée, un frac, une collection. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.lesabattoirs.org.
Cinéma vous est présenté en 2D oral. Non, oral, A-U-R-A-L.
D'accord. Oui, ça vous est présenté donc. Alors aujourd'hui, allez, on.
T'as pas fait les Gérard, mais tu fais des mecs qui en ont.
Oui, avec Iron Man 2 aujourd'hui, le film 2 et avec Jon Favreau, puisque le type il s'est octroyé un rôle encore plus important que dans le 1, parce que c'est lui qui fait le chauffeur de Tony Stark. Et oui,
ah,
et oui, donc comme tu as vu le film, tu vois qu'il s'est quand même attribué un rôle un peu plus...
Enfin quand même, il se rend bien ridicule.
Oui, mais il bastonne quand même, voilà, ouais. avec bien sûr Robert Downey Jr., Gwyneth Paltrow, Mickey Rourke, Norman Rockwell, Don Cheadle, Scarlett Johansson. C'est bon, allez, n'en jetez plus. Et donc après s'être dévoilé au grand jour à la fin du premier opus, le milliardaire Tony Stark doit à présent assumer son statut de super justicier Iron Man. Mais le gouvernement américain lui réclame la fameuse armure, et c'est une course à l'armement qui débute entre le riche flambeur devant lutter contre la dégénérescence de son système de survie, un fabricant d'armes concurrent qui a embauché un terroriste revanchard, et James Rhodes, l'ami de Stark qui obéit, bien sûr, à l'armée. Donc là ça fait un petit maelstrom avec des conflits d'intérêts de partout et tout. Alors... on pouvait craindre le pire parce que la bande-annonce circulait depuis pas mal de temps. On s'est dit, tiens, c'est quoi cette bande-annonce pourrie? Ils enquillent tous les morceaux de baston. Scarlett Johansson qui fait à la pose Trinity Motoko, genre je mets un point par terre en regardant droit vers l'objectif. Mickey Rourke avec des fouets. Hein, voilà. Bref, alors en plus, surtout que le premier film avait fait l'unanimité positivement, autant du point de vue de la critique des profanes, des fans de comics, etc., en louant tous, le film tel quel il était bien, mais surtout
ouais,
aussi. Le film
bon,
est.
Mais sans plus quoi.
Ouais. Si, il était pas mauvais, mais c'est vrai que ce qu'il a vraiment porté, d'abord c'est le côté rock'n'roll, et ensuite ça a été le choix de l'acteur. Qui a vraiment été une idée de génie, voilà. De ce côté-là.
Voilà, il était assez porté sur l'acteur, mais il faut dire aussi que un Donnie Jr. Excellentissime. Si le film et la relation ne suivaient pas à côté, ça l'aurait pas fait non plus. Donc c'était un petit alchimie qui a très bien fonctionné dans le 1, avec évidemment Donnie Jr. qui a porté le projet à bout de bras. Alors on pouvait craindre tout ça après avoir vu le trailer, et finalement en voyant le film, ben en fait la bande-annonce était aux antipodes de ce qu'est le film, puisque la bande-annonce enquille la baston et les, on va dire, les scènes obligées.
C'est les principes d'une bande-annonce.
Non, mais t'en as certaines qui plantent un climat. Je suis désolé, la bande-annonce de The Dark Knight, ça trahissait pas du tout le film. Et celle-là, c'est vrai que ça, on pouvait craindre que ce soit stéréotypé, qu'ils voulaient en faire toujours plus par rapport
Michael Bay Explosion.
Voilà. Et finalement, c'est pas du tout ça. C'est plutôt l'effet inverse, en fait, puisque après avoir vu le film, tu te dis, mais comment les décideurs de Marvel ont pu valider ce scénario? C'est-à-dire que c'est un scénario, à mon sens, qui est anti-commercial au possible, puisque pour schématiser un peu, tu vois, pendant 1h40, t'as des dialogues. Et genre, blablabla. Et puis à la fin, t'as 20 minutes de baston non-stop. Enfin, quasiment. C'est vrai que les dialogues, bon, c'est super acteur et tout, et les personnages sont bien. Mais à un moment donné, tu te dis, mais c'est quand que ça arrive, quoi. Et surtout que les. Bon, le film, tu sens que Jon Favreau, après avoir porté au pinacle le Tony Stark dans le 1 en disant, oui, tiens, je me découvre une conscience, je vais arrêter de vendre des armes et tout, je suis flambeur, je suis génial et tout. C'est vrai que là, il y a le côté rock'n'roll qui descend un petit peu. Et on assiste à la chute, la descente en règle de Tony Stark. Donc il a des problèmes de santé et son entreprise a des soucis également parce que c'est en concurrence directe avec un autre vendeur d'armes. Il a des relations un peu compliquées avec sa secrétaire Pepper Potts.
Il a aussi un peu des problèmes d'alcool, c'est juste suggéré.
Oui, c'est juste...
La crise.
Voilà, il a les problèmes d'alcool, je pense que ça...
Non, mais en fait, on en parlera tout à l'heure, mais ça reprend justement dans la mythologie de Iron Man pas mal d'éléments qui ont déjà été traités. C'est pas récent, justement, c'est ça qui est très fort.
Alors pour l'instant, c'est vrai que on sent qu'il est un peu dépendant de l'alcool, mais c'est jamais le problème moteur des films. Alors que quand on connaît la BD, on sait qu'il est quand même rongé par l'alcoolisme à un moment donné,
ça a surtout été traité en 71.
Oui. Et c'est vrai que pour l'instant, ce n'est que suggéré. Donc on pense peut-être que s'il y a une petite trilogie ou 4 épisodes, ça va arriver un peu plus, sera plus présent dans les prochains. Et c'est vrai qu'il a plein de petits soucis comme ça. Il a un problème de rivalité aussi avec Whiplash. C'est Vatko, c'est le fils d'un ancien associé de son père qui avait créé les répulseurs, enfin les ancêtres des répulseurs à leur époque. Et donc c'est plein de petits soucis comme ça qu'il va devoir affronter, son indépendance par rapport au pouvoir militaire des États-Unis. Mais alors moi, ce que je trouve dommage, c'est que Stark, il est très intéressant, il est très rock'n'roll et flambeur et tout quand tout va bien, et quand tout va mal, tu as le droit d'attendre que ce soit traité comme une star du rock'n'roll qui est déchue, qui saccage les chambres d'hôtel. Alors à part une fabuleuse soirée d'anniversaire qui est absolument génialissime parce que ça vient vraiment à l'autodestruction complète, mais c'est vrai que là t'as vu ce qu'a fait De Palma avec Tony Montana. Bon, il y a quand même matière à faire une espèce de descente aux enfers qui soit rock'n'roll et que tu prends ton pied à voir un Tony Stark qui dégringole. Là, il dégringole, mais ça reste quand même assez soft, quoi. Même tu te fais chier, tu dis oui, bon, allez, c'est bon, on sent qu'il est pas bien. Et puis le sommet du ridicule dans le film, c'est que c'est surtout sa relation avec son père. À un moment donné, il est au fond du trou, il est tout seul et tout. Donc il va regarder des images d'archives avec son père qui avait un rêve, c'était de faire une espèce de mini-cité, un gros projet et tout. Et puis à la fin, il y a son père qui...
Tony, c'est un Disneyland en fait.
Voilà, une espèce de Disneyland. Et à la fin, il y a son père qui, face à la caméra, dit « Tony, je sais que tu regarderas ce film après, tout ça, je le fais pour toi, tu vois, en fait, je t'aime et tout. » Et là, t'as Stark qui est là. Ah oui, oh mais je t'aime papa, c'est vrai. Et en fait, le problème que j'ai en ce moment par rapport aux répulseurs et à mes adversaires, c'est peut-être dans le plan du fameux Disneyland, parce que tu as peut-être caché un schéma dans l'architecture.
Oh ta gueule Thomas.
Le papa avait tout prévu.
Hein.
Non, c'est franchement là, c'est ridicule. Qu'est-ce qu'ils vont foutre en espèce de père qui sauve la situation alors que bon. T'as quand même quelques petits détails de Stark, genre à un moment donné il est propriétaire d'une écurie de sport automobile et puis il vire sans ménagement et pilote, tiens je vais piloter à ta place. Alors t'as, à un moment donné il y a le concurrent Stark qui regarde la télé et puis là tu vois le pilote qui jette son casque et puis oh merde.
Et tu vois le titrage qui change à voler et tout.
Oui, le titrage est remplacé, ouais Tony Stark.
Bah bon, c'est rigolo de ce point de vue là.
Voilà,
mais d'un autre côté, moi il y a autre chose qui m'a gêné. Je crois que le personnage de Tony Stark avait été rebooté dans les années 80.
Ouais, ouais, début des années 80. Ouais.
Ouais. Donc il y a bien de ce côté-là justement, bon, un passage, un lien de génération qui est assez intéressant. Mais c'est l'idée, c'est on fait remonter en fait la construction. Ça fait, c'est un peu la reprise des Coop. C'est la cité qui est à côté de Disney World en Floride sur le monde idéal du futur.
Epcot.
Epcot, voilà, qui est sponsorisé par différentes entreprises. C'est ça un peu qui est repris dans ce projet. Même si le projet Disney date des années 50. Et là, on dit la création du complexe militaro-industriel date des années 70. Alors, c'est faux. C'est complètement faux. Figurez-vous, est-ce que tu sais d'où vient cette expression? C'est Ike qui l'a sorti. C'est Eisenhower. Et c'était en 59. Donc quand même à l'époque, et il avait dit lui-même qu'il craignait que des conflits soient menés uniquement pour les intérêts économiques de ce côté-là. Donc il y a un peu ça qui me gêne, tu vois, dans le film, c'est qu'on a un petit peu réécrit l'histoire des États-Unis, même si c'est un univers complètement fictionnel et tout ça.
Oui.
C'est un petit peu dommage, il y avait de quoi faire beaucoup plus en arrière, des trucs beaucoup plus intéressants, quoi.
Donc voilà, de ce côté-là, le scénario est un peu déstabilisant parce que, enfin, pour moi, c'est le rythme, il est pas bon, quoi. Il est mal géré. Il y a pas d'espèce d'échelle des montagnes russes où il y a un petit moment d'accalmie, un moment un peu tendu pour réveiller le spectateur. Là, c'est t'as le décrescendo au fur et à mesure que Tony Stark plonge un peu, puis à la fin, t'as ce espèce de moment de pur délire geek, de baston de répulseur avec. Bon, de toute façon, si vous avez vu la bande-annonce, vous avez vu que Rhodes endosse lui aussi une armure qui est donc la fameuse War Machine dans le comics. Et là, t'as de la baston robotique de partout. Bon, pas vraiment robotique, c'est d'armure. Et alors, tu te dis.
Ce sont des drones, hein. C'est le terme est bien précisé.
Voilà. Alors, de toute façon, quand t'as vu la bande-annonce, tu attends que ça. Parce que tu te dis, c'est du jamais vu. Bon, après, c'est un peu déviant parce que bon, ça voudrait dire que t'attends que du bourrin, hein, mais. Voilà, et à la fin quand ça arrive je dis ouais c'est bien mais ça finit aussi vite que ça a commencé et c'est franchement frustrant quoi. Et puis même la baston contre Whiplash, Mickey Rourke finalement par rapport à ce que je pensais, contrairement à ce que je pensais, bah ça le fait en Vatko avec l'espèce de répulseur et les fouets, peut-être que Rourke il était maintenant il est un peu abîmé par la vie donc il a même avec un cascadeur ça le fait pas trop, enfin c'est trop court quoi. Enfin,
moi je trouvais que ça allait bien sur le fait qu'il était détruit de sa vie, il a eu un truc bon. D'abord faut pas oublier une chose, c'est que ce sont des justiciers, ce sont pas des super-héros, ils ont pas de pouvoir.
Oui.
Donc tout vient de leur équipement, qui a le temps de préparation de l'équipement, le temps de recherche et développement. De ce côté-là c'est bien amené, c'est pas inintéressant. Ensuite il y a tout le côté politique puisque Stark tient une multinationale qui vend en plus directement au Pentagone. Il y a des featuring assez hallucinants, puisqu'il y a Anandpour qui est l'une des grandes présentatrices de CNN international. Il y a aussi on voit passer Larry King hein, aussi de CNN. Il y a les couvertures de Time. Attends, CNN c'est Group Time, c'est Warner, c'est DC ça d'habitude. Bon, et qui c'est qui fait l'éditorialiste méchant dans l'eau? C'est O'Reilly de Fox News, le faf de base et le misogyne absolu qui dit c'est qui cette poufiasse qu'on met à la tête d'une grosse boîte. Là je trouve c'est bien amené, c'est à dire il y a tout le côté politique, c'est bien, il y a toute cette partie justement qui en général n'est pas très développée, ce que l'on a beaucoup reproché en fait hein, à toute la partie qui avait été scénarisée par par Stan Lee, c'est que lui c'était plutôt le côté rentre dedans, allez vas-y je vais au Vietnam, je vais niquer du Nam et du Coco et je reviens etc. Là il y a vraiment de ce côté là toute la partie débattoir, les en coulisses, ce qui se prépare sur le niveau politique, les marchandages et tout le reste, je trouve que c'est bien amené.
Ouais, mais après pour revenir au saut de rythme, c'est vrai que la partie sur Whiplash elle est assez mal gérée également parce que le personnage, on sait pas trop, on sent qu'ils n'ont pas trop su quoi en faire en fait parce que
mais il est comme ça hein, dans la BD.
Oui, mais Whiplash, on sent qu'il voulait à la fois le développer, mais ça voulait dire que ça allait à l'encontre de la plongée dans de Stark quoi. C'est à un moment donné, tu es obligé de laisser Stark pour aller vers Whiplash et l'équilibre entre les deux est bizarre parce qu'à un moment donné, t'as que des scènes avec Whiplash, avec où il se débat avec son patron. C'est un marchand d'armes qu'il a engagé pour développer des drones. Et c'est vrai que le personnage de Mickey Rourke, il est un peu rock'n'roll aussi, parce que c'est quelqu'un à qui on la fait pas, et puis qui est un peu à un moment donné, il veut son perroquet. Donc il y a plein de petits gags comme ça. Mais tu te dis, mais c'est pourquoi ils ont développé ça? Parce que ça apporte pas grand chose non plus. Donc c'est bizarre. C'est à un moment donné, tu délaisses Star pour aller vers Whitepatch. Après, tu.
Enfin, en même temps, je trouve que c'est un bon renouvellement du savant fou.
Ouais, ouais. Et donc voilà. Et puis bon. Voilà, finalement, c'est un film qui est un peu déconcertant, mais à la fois dans le bon sens du terme, parce que tu te dis que c'est pas un genre de scénario que t'as l'habitude de voir dans des adaptations de comics, et en même temps, c'est quand même un peu déconcertant, parce que tu sais pas trop sur quel pied danser pendant tout le film, et puis à la fin, tu as l'impression d'avoir vu un truc singulier, mais tu sais pas trop quoi en penser, tu peux pas dire que t'as pris ton pied à 100% non plus. Alors, évidemment, comme dans le 1, il faut rester après le générique de fin, puisqu'il présente un personnage très connu de la galaxie Marvel qu'on ne dévoilera pas, et il faut savoir aussi que le personnage qui avait été dévoilé après le générique de fin dans le 1, donc c'était Nick Fury, et son personnage est beaucoup plus développé dans
Nick
le 2.
Nick
dans
Fury 2. Black.
Oui,
donc hallucinant.
Gardé par Sam Jackson.
Ça change quand même du précédent Nick Fury au cinéma, pardon, à la télévision.
Magnifique, magnifique.
Donc voilà.
On rappellera pas qui c'est. Si, si.
C'était David Hasselhoff.
Oui, exactement. Voilà. C'est une catastrophe.
Donc voilà, on rappelle donc Iron Man 2 et avec Jon Favreau. Bon, j'ai pas parlé de Scarlett Johansson qui s'en sort bien. Son personnage est assez
fade.
Voilà, exactement. C'est un peu anecdotique. Elle s'en sort bien, son personnage est pas raté, mais franchement c'est une cerise sur le gâteau. C'est pas vraiment, elle apporte pas grand chose à part le fait que je suis une espionne. Bon, alors voilà, deux avec Jon Favreau, avec Robert Downey Jr., Gwyneth Paltrow, Mickey Rourke, Norman Rockwell, Dean Cheadle et Scarlett Johansson. Et évidemment, ce n'est pas une sortie technique, vous pouvez encore aller le voir
exclusivement en VF malheureusement.
Oui, sur Toulouse en tout cas, oui.
Mais en tout cas, la VF est plutôt bien travaillée. Puisque on entend bien les voix dans le fond, et quand il passe des extraits de la télé russe, on entend le doublage par-dessus, le doublage à la polonaise.
Ouais.
C'est pas trop mauvais. Et puis tu sens que Rourke quand même, je sais pas s'il a vraiment bien prononcé en russe et tout ça, sans accent et tout, mais bien beurré avec la Zubrovska derrière.
Oui, en tout cas Rourke quand même, ça le fait quand même.
Ah, c'est pas mal du tout. Et la bande son, on va peut-être en parler.
Eh ben c'est du riff, hein, c'est du AC/DC.
Pur jus.
Voilà.
Donc, Rock'n'Roll Damnation.
Trying to point to
Rock and Roll Damnation, extrait de AC/DC, extrait de l'album Powerage, remasterisé de AC/DC. Et juste une chose qu'on a oublié de préciser à propos de l'armure, on avait reçu Adi Granoff, pardon, on avait interviewé Adi Granoff, et on avait diffusé son interview en mai 2008. Vous pouvez d'ailleurs réécouter l'émission sur suppléantweekend.fr. Et en fait, c'était là, l'armure à la fin ressemble beaucoup plus graphiquement à ce qu'avait dessiné Adi Granoff.
Oui, alors pour ceux qui ne suivent pas, Adi Granoff est donc le dessinateur qui a relancé la franchise Iron Man en comics au niveau du dessin sur un scénario de Warren Ellis, il me semble. C'était Iron Man Extremis et c'est une relecture de l'armure d'Iron Man, et cet arc de comics a tellement bien fonctionné qu'il a été engagé en tant que character designer sur le film, et c'est lui qui a redesigné l'armure pour le film de Jon Favreau.
Je me souviens de l'intro que j'avais faite à l'époque. Tony Stark est-il le War Hughes moderne? C'était pas mal. Du sport, lui, il vient avec de la musique sur papier.
De la musique sur papier, mais également de la musique qu'on a pu voir cette semaine lors du Festival de Cannes à l'occasion de la présentation d'un documentaire qui s'appelle Exile on Main Street. Et d'ailleurs, les Rolling Stones.
Jagger, ouais, c'était Richards, les Rolling Stones, donc on y va.
Jagger Richards était présent sur la croisette et tout, avec plein de petites filles qui étaient là, mic, 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 alors qu'il pourrait très bien être leur grand-père vu son âge avancé, hein, il a passé la soixantaine depuis pas mal de temps, quand même, et puis bon, il y avait même, j'ai même lu qu'il y avait une petite fille qui disait, oui, moi je veux être en photo à côté de Mick et tout, mais c'est juste pour faire bader ma maman. Alors là, on comprend un peu mieux, quoi, parce que bon, bah, ok, hein, ce que sortent les Stones actuellement, c'est pas vraiment reluisant, et puis ça fait quand même quelques décennies que bon, bah, on a un petit peu laissé tomber, enfin, moi du moins, quoi. Mais en tout cas, en ce qui concerne Exile on Main Street, ça raconte une période très précise des Rolling Stones. Ça raconte donc un petit peu l'enregistrement. Le documentaire qui est sorti est le documentaire filmé qui raconte l'enregistrement de ce double album. À l'époque, c'était un double album, hein, puisque le CD ça n'existait pas, donc c'est un double vinyle qui était sorti et qui avait été enregistré sur la Côte d'Azur, dans la villa que Keith Richards avait louée, donc sur la Côte d'Azur. Pourquoi sur la Côte d'Azur et pourquoi en France ? Eh bien, il faut savoir que les Stones sortaient de nombreux déboires financiers et on va dire policiers, on va dire, hein. Il y avait Altamont qui était passé par là, le fameux concert gratuit que les Stones avaient donné en fin de tournée américaine en 69, qui avait déboulé par la mort d'un jeune black et tout, qui soi-disant avait un flingue et tout. On s'est rendu compte qu'il avait été poignardé à mort par les Hells Angels qui étaient chargés de la sécurité. On s'est rendu compte après que le flingue était vide. Ça, c'est une autre paire de manches de toute façon. Mais il y avait eu avant les histoires de dope de Keith Richards et de Mick Jagger quand ils habitaient à Londres, les descentes de flics et tout. Tous les flics de Londres, pratiquement à l'époque, la police anglaise en général était assez corrompue, hein, donc hein, c'était à qui pouvait faire choper le maximum de gens et tout, peut-être prendre des petites enveloppes comme ça pour essayer de passer le coup, mais c'était surtout le fait de dire putain, je me suis payé un Stones par la dope, un truc comme ça. Et donc il y a eu de grosses histoires qui étaient sorties. On se rappelle même que lors de l'incarcération de Mick et de Keith Richards, bon, ils n'avaient pas duré longtemps, hein, ils avaient duré 2-3 jours quand même, eh bien, les autres artistes anglais, avec John Lennon en tête, avaient acheté la première page du Times, c'est pas n'importe quoi, hein, c'est l'équivalent, on va dire, du Monde en France, avaient acheté la première page du Times pour indiquer, pour dire, ok, ce sont que des artistes et tout, vous attaquez aux faux problèmes et tout, enfin bon, avec un plaidoyer sur une page, pour essayer de défendre donc Jagger et Richards. Ajoutez à cela que en rockstar digne de ce nom, eh bien, ils dépensaient du pognon et tout. De toute façon, ils en avaient rien à foutre. Ils se disaient que bon, bah, le comptable était là pour leur filer du pognon à tort et à travers, donc ils faisaient absolument aucun compte. Ce qui est d'ailleurs le propre de toutes les rockstars, hein. C'est bon, bah, ok, j'ai le pognon, y a pas de problème. Je sais pas d'où il vient, je sais pas combien je gagne exactement. Mais l'essentiel, c'est que j'en ai pour mes besoins immédiats. Mais là, dans ce bouquin, eh bien, on s'attache plus au personnage de Keith Richards. Donc, qui lui est obligé de déménager et tout, et bon, qui déménage en catastrophe et tout. En Angleterre, la levée des impôts, c'est le 1er avril. Non, ce n'est pas une vanne, c'est vrai. Et donc, en catastrophe, c'est le déménagement de Keith Richards. Bon, on va lui trouver une villa vite fait et tout. Il s'avère que c'est la villa d'un grand bourgeois qui a travaillé avec Cartier, qui a travaillé avec d'autres maisons prestigieuses dans le monde du luxe. Et donc qui est mort, mais enfin bon, donc ils reprennent la villa, ils louent la villa. Et donc, eh bien, ça se passe, on est en été 71, 72, l'été 71, donc, et donc, comme après les trois meilleurs albums des Beatles, des Stones, pardon, qu'il y a eu, c'est-à-dire Sticky Fingers avant Let It Bleed et Gimme Shelter, Let It Bleed et Gimme Shelter, dont on peut entendre un morceau ou deux dans tous les films de Martin Scorsese, exception faite de Shutter Island. Bien sûr, mais là, c'était difficile parce que c'était situé antérieurement, chronologiquement parlant. Donc, il faut qu'ils marquent le coup et il faut qu'ils essaient de récidiver discographiquement pour essayer d'assurer ce qui va être la prochaine tournée américaine qui est plus ou moins programmée en 72. Apporter un petit peu de sang neuf au niveau de la musique. Et donc, pour cela, eh bien, il faut enregistrer encore de la musique. Mais où? Parce que bon, bah, ils sont plus ou moins personnels en gratte en Angleterre. Ils ont déjà fait le tour des studios californiens pour enregistrer leur précédent album. Donc, pour avoir un petit peu de sang neuf, eh bien, il faut enregistrer ailleurs. Et là, bah, comme ça, lors d'une soirée de défonce, on va dire, on lance, Keith Richards qui lance, là j'ai ma cave, on peut enregistrer dans ma cave et tout, je fous rien dedans, il n'y a pas de problème, c'est grand, il y a de la place, tranquille. Et puis bon, de ce fait, les autres Stones louent des maisons un petit peu alentour sur la Côte d'Azur, histoire d'être proches, et vont commencer à enregistrer cet album. Ça raconte surtout l'histoire de Keith Richards, ça raconte surtout l'histoire de ses démêlés avec la justice, de ses démêlés avec ses différentes nanas, et surtout de sa dépendance à la drogue, qui à l'époque est vraiment effective, il est défoncé à l'héros pratiquement tout le temps, à tel point qu'à la fin du bouquin, c'est-à-dire pour annoncer la tournée qui va avoir lieu aux États-Unis et pour qu'il puisse également se rendre aux États-Unis, il doit être complètement clean. Parce que pendant cette période, il se fera suivre. Il se passe cette fameuse aventure où les flics vont débouler, les flics français vont débouler dans la villa et tout, vont saisir de la dope. Et ce, parce que les dealers qui étaient des intermédiaires par rapport à la pègre marseillaise, on est à la bonne époque, de l'héroïne marseillaise, la French Connection, les parrains corses donc qui dealent leur drogue donc un petit peu partout, surtout aux États-Unis, mais qui font également profiter les gens qui ont du pognon ici en France. Par le biais d'intermédiaires, ces intermédiaires vont carrément balancer les Stones et surtout Keith Richards aux flics pour se dédouaner un petit peu, comme d'habitude. Généralement, quand on balance, c'est pour avoir une peine un petit peu plus légère, il n'y a pas de problème. Et donc ça va assez mal se passer de toute façon. Le fait est que au moment où les flics déboulent, Keith n'est pas là, il est en vadrouille et tout, et donc il va devoir se barrer. Les autres Stones vont être convoqués à Aix-en-Provence au tribunal et tout, pour une première audience et tout. Mais Keith Richards sait qu'il joue vachement gros, parce que contrairement aux autres pays, surtout anglo-saxons, où là, après avoir été jugé, après que l'affaire était instruite, on reste en stand-by, mais le juge en France peut décider la mise en détention, alors que aux États-Unis, par exemple, si t'as plein de pognon, on fixe une caution, tu payes et puis tu te casses et t'attends le jour du procès. Là, en France, c'est pas pareil. Et
donc, il y a la préventive.
Keith se dit que vu les quantités de drogue supposées qui ont été balancées et tout, et trouvées d'ailleurs, il se dit que peut-être qu'il va devoir patienter en tôle dans ce qu'il veut pas. Et donc pour faire allégeance, on va dire, par rapport à la société, par rapport aux flics, il est obligé de se désintoxiquer. Ça raconte également son premier séjour en Suisse. Ce ne sera pas le seul, d'ailleurs, son premier séjour en Suisse, où il va devoir se désintoxiquer en compagnie de sa compagne du moment, Anita Pallenberg, qui, elle, est aussi camée que lui, enceinte en plus. Elle va accoucher enceinte. Heureusement le bébé s'en sort bien, c'est-à-dire que le bébé n'est pas accro à sa naissance, comme c'est souvent le cas pour les personnes qui sont accros. Et ça raconte également tous les rapports qu'il y a entre les différents Stones à l'époque, comment ils vivaient ce petit truc-là. C'est la période aussi où Mick et Bianca Jagger vont se marier à Saint-Tropez, sur la musique de Love Story. Alors là, c'est carrément incroyable, mais des anecdotes comme ça, ça en fourmille vraiment. Ce bouquin est absolument excellent, écrit par quelqu'un qui était dans l'intérieur, qui connaissait très bien les Stones, pour avoir écrit le premier bouquin consacré à une tournée rock'n'roll, c'est-à-dire la tournée des Stones en 72. Alors Greenfield a écrit ce livre en 2008, ce bouquin est sorti en 2008. Greenfield est un Américain qui vit à Carmel, Californie, la ville dont Clint Eastwood était le maire,
oui, tout à fait, oui.
Dans le temps. Et Greenfield, donc, à l'époque de la tournée des Rolling Stones en 72, a écrit ce bouquin que je vous chroniquerai la semaine prochaine, parce que chronologiquement, il voulait mieux parler de ce bouquin qui chronologiquement se situe avant la tournée américaine de 72. Le bouquin s'appelle STP et ça a été un bouquin culte à un moment pour tous les rockers, pour tous les défoncés, parce que bon, bah, on y raconte par le détail tout ce qui s'est passé durant cette tournée de 2 mois. Et je peux vous dire que c'est pas piqué des hannetons. Ce bouquin aussi n'est pas piqué des hannetons, hein, ça concerne pas mal de choses. On y aborde tous les sujets. La bisexualité de Mick Jagger, plein de choses comme ça. Hein, à l'époque, bah ouais, c'était plus ou moins comme ça. Ça met, il arrive à bien planter le décor au départ et cerise sur le gâteau, à nous expliquer ce que sont devenus tous les protagonistes du livre à cette époque-là, actuellement. Hein, c'est-à-dire les fils d'eux et les filles d'eux, que sont-ils devenus, comment ça s'est passé pour eux, les personnages qui à l'époque étaient plus ou moins centraux dans le livre, qui étaient là et participaient, c'est-à-dire grosso modo Anelcote, c'est le nom de la villa, hein, c'est le titre original du bouquin, Anelcote. Anelcote, dans cette villa, venait pratiquement qui voulait. Allô, salut Kiss, je peux passer, pas de problème et tout. Ah ouais, ouais, tu viens et tout quoi. Bien sûr, fallait ramener un petit peu de dope et tout. Bon, c'était évident. Hein. Ou certaines nanas, pas de problème. Enfin, c'est un très bon bouquin Greenfield là. Il réussit vraiment bien son coup. C'est sorti dans cette maison d'édition qui s'appelle Le Mot et le Reste. Une maison d'édition qui est située à Marseille et qui nous sort que des bouquins sur la musique, mais qui est très variée. Hein. Chrono Jazz m'a parlé d'un bouquin sur le jazz, hein, sur les 100 meilleurs artistes du jazz. Il y a également des bouquins sur les 100 meilleurs covers du rock et tout. Enfin
Oula,
bref,
ça mérite un top 5 là.
Mais je l'ai pas fait encore parce que bon bah je vais essayer de me procurer les autres.
Les 99 autres.
Non, quand même pas quoi. Alors, en tout cas, Exile on Main Street, une saison en enfer avec les Rolling Stones, et puis bon bah quand on connaît la saison d'enfer de Rimbaud, on peut se dire que bon bah ça y ressemble pas mal, si ce n'est pas pire. Et dans ce bouquin, il faut bien mettre les choses au clair. Parallèlement à STP, dont je parlerai la semaine prochaine, c'est que les rockers des années 80 et des années 90, les saccages de chambres d'hôtel, ils n'ont rien inventé du tout. Et c'est pas pour rien que Keith Richards est le héros de pas mal de guitares héros. Et entre autres, on y raconte également l'anecdote de Keith Richards en 2006, qui était pressenti pour jouer sur Pirates des Caraïbes,
il
se fracasse la tête et qui est obligé de retarder le tournage pour qu'il puisse se remettre. Il a failli mourir d'ailleurs à cette occasion, quoi. Ouais. Et
quelle idée d'aller planquer sa boulette de touch en haut de la bibliothèque.
On nous rappelle bien que c'est Johnny Depp dont Keith Richards est l'un des héros. C'est Johnny Depp donc qui a insisté pour que Keith Richards vienne faire une apparition dans Pirates des Caraïbes. Tout ça,
oui, parce qu'en fait, au départ, c'est Johnny Depp qui avait imposé à Disney le look de Jack Sparrow. Il s'était inspiré de Richards.
C'est le look de Keith Richards.
Voilà, et il a dit bon, de toute façon, il faut quelqu'un pour interpréter mon père. Je veux lui.
Voilà, donc Exile on Main Street, une saison en enfer avec les Rolling Stones.
À noter pour ceux qui nous écoutent en direct sur la radio, sur 89.1 et sur le stream, que tout à l'heure, à 14h.
Ah bah, il y aura une demi-heure de Stones, carrément, quoi. Allez.
Voilà.
Comme on dit en France.
Et on va arrêter de leur jeter la pierre.
Allez.
Série
de la série, ouais.
Les scénaristes se suivent et se ressemblent, les héros s'en sortent toujours et on aime toujours ça, c'est la loi des séries.
Alors, on commence par les homosexuels avec une nouvelle série anglaise consacrée aux homos, ça s'appelle Beautiful People et c'est programmé à partir de demain soir sur Série Club en VO sous-titré, donc ça vaut le coup, à partir de 20h40, Beautiful People. C'est tiré d'un bouquin éponyme de best-seller en Angleterre de Simon Doonan. Hein, Simon, le héros donc de Beautiful People, eh bien vit dans le nord de l'Angleterre avec une mère alcoolique, un père qui est plombier mais qui est également bien cavaleur. La tante elle est aveugle mais accro aux amphétamines. La sœur elle est nympho. Enfin bon, ça fait une bonne famille comme on les aime bien dans les séries anglaises. C'est ce qu'ils savent le mieux faire. Et on peut également faire le parallèle avec Queer as Folk dont la version anglaise est nettement supérieur à la version américaine. Hein, ça, il y a pas photo de toute façon. Bref, tout ça pour vous dire que c'est Luke Ward Wilkinson qui interprète le rôle de Simon avec à ses côtés Leighton Williams. Simon, au départ de cette petite série dans la première saison, ne fait que 6 épisodes. Mais en fait, au départ, vit dans cette famille dans le nord d'Angleterre et tout. C'est la zone. En plus, il est pédé, donc ça rajoute pas aux affaires. Donc, mais 10 ans plus tard, hein, on est à la fin des années 90. 10 ans plus tard, donc actuellement, bien, il est à New York. Il est directeur de création dans un grand magasin à New York. Donc, il a réussi. En plus, le mec vachement en vogue et tout. Il est de toutes les parties, nickel. Et donc, il se rappelle justement comment il en est arrivé là. Et c'est ce que A Beautiful People nous propose donc dans cette petite série. 6 épisodes dans cette première saison, avec 3 épisodes déjà diffusés demain soir. Le premier, c'est ma première jarre. Le deuxième, ma première attaque nasale. Et le troisième, mes premières perles. Donc, on remarquera également que...
Oh là là, qu'est-ce que c'est connoté.
Oui, non, mais bon, ça, c'est les traductions françaises aussi. Hein.
Oui, bon, d'accord.
Alors, on remarquera également que au niveau de la programmation musicale, il n'y a pas que les pensifs gays habituellement utilisés, quoique, hein, Pet Shop Boys, Gloria Gaynor, mais également Daft Punk, George Michael et Janet Jackson, entre autres. Bon, ça peut faire une bonne bande.
George Michael, je te rappelle quand même que...
Oui, non, mais bon, ok.
Ouais, et là, quand il s'est fait arrêter dans les toilettes en train de faire un French Kiss à un autre mec, il en a fait un clip.
Bah oui,
de la gueule de la police de Los Angeles.
Oui, non, mais bon, ça va, quoi. Moi, j'aime
bien. Tu as les toilettes qui se transforment.
On change radicalement de sujet avec, vous avez loupé le début, c'était mardi dernier sur Arte à partir de 22h10, donc dans la case polar, de série polar de Arte, hein, la série où il y avait KDD dans le temps. Ah, j'ai réussi à la placer. Et là, ça s'appelle The Killing. Et on remonte au nord et on va au Danemark. Une série danoise, donc, qui s'appelle The Killing. 20 épisodes et 20 jours. Alors l'histoire est très simple, c'est l'inspectrice Lunt, interprétée par Sophie Grabol, c'est son dernier jour de boulot. Elle doit partir avec son mari, son mec, qui a trouvé un boulot en Suède. Et donc ils vont déménager, ils sont en train de déménager, tout bordel. Et puis bon, elle au téléphone, elle lui dit « Ouais, ok, pas de problème pour ce soir, ok, on prend l'avion, on y va et tout, tranquille. » Sauf que, bien dès les premières images, on voit une fille très courte vêtue dans la nuit au Danemark, donc il fait pas très chaud, et qui se fait poursuivre par un type dont on sait pas qui c'est. Et puis bon, on retrouvera son cadavre le lendemain, assez mutilé. Je vous passe les détails, bien c'est assez sordide quand même. Et donc, son patron lui dit, ok, va sur la scène de crime et tout. De toute façon, tu pars ce soir. Et puis comme ça, son remplaçant arrive dans le bureau et tout. Salut, je me mets où et tout. Enfin, clac, ah ouais, pose ses affaires, c'est bon. Il se rend sur la scène du crime et tout. Et puis bon, on se rend tout à fait compte que les deux n'ont pas vraiment d'atomes crochus et ne travaillent pas du tout de la même façon. Hein, autant Lunt est très posé, très pragmatique dans son approche. De l'enquête, autant l'autre est un petit peu un bourrin qui fonce dans le tas. Ok, et va se passer ce qui va se passer, c'est que bon bah elle va se prendre dans cette enquête, il va y avoir des rebondissements, hein, tout au long de la même journée, hein, de toute façon quoi. Et elle va être obligée de rester, plus ou moins, alors que son mari est arrivé en Suède dans leur petite villa, dans leur petite maison, il fait construire un sauna et tout. Alors je choisis quel pain pour le bois du sauna, enfin des trucs comme ça. Et l'enquête va se révéler particulièrement coriace parce qu'il n'y a absolument aucun élément, pratiquement pas. Et on va s'attacher à suivre en fait 3 groupes de personnes. D'abord les inspecteurs, enfin le groupe d'inspecteurs, hein, le duo d'inspecteurs. Ensuite la famille. Les parents et les frères et sœurs de la fille, de la jeune fille qui avait 17 ans, qui a été assassinée. Et parallèlement à ça, le gars qui fait une campagne pour être élu maire de la ville où se passe l'aventure. Et pourquoi on suit ce troisième personnage et toute son équipe? Tout simplement parce que au fur et à mesure de l'enquête, on va se rendre compte que c'est une personne qui avait été employée, mais juste pour distribuer des tracts, qui serait peut-être le coupable. On n'en saura pas plus, hein, parce que lors des 2 premiers épisodes, on a juste 2 journées, en fait, la première et la deuxième journée d'enquête. Les 2 autres journées d'enquête, c'est à partir de mardi, 22h10 sur Arte. Alors, c'est un polar très lent, très doux, très très glauque d'ailleurs. Hein. Il y a beaucoup de temps mort. Il y a beaucoup de la caméra ne va pas vite du tout. Les travelling, les mouvements de caméra sont très lents. Mais enfin bon, ça ajoute un petit peu au pathos et c'est vraiment très très bien foutu de ce côté-là. Du côté des interprètes, autre Sophie Grabol, un certain Lars Mikkelsen donc qui joue. Je sais pas si, j'ai pas cherché s'il y avait un rapport avec Mads Mikkelsen. Quoi qu'il y ait une petite ressemblance quand même, mais j'ai pas eu le temps de chercher à savoir s'il y avait un petit rapport de famille qui joue l'inspecteur Meyer, le rock'n'roll rentre dedans. Il y a également Søren Malling et Marie Ashkav. Et moi ce que j'ai remarqué et tout, parce que je suis un mec, hein, d'accord.
Allez, vas-y, fais-nous rêver.
Dans cette série, eh bien toutes les nains, c'est des canons à tomber par terre, vraiment quoi. Ouf. Je sais pas comment ils font, mais enfin, j'ai vraiment envie d'aller au Danemark.
Christine, si tu
et
nous
pas
écoute,
seulement pour la petite sirène. Alors, c'est The Killing, donc je rappelle, hein, c'est vraiment une bonne série. Hein, je vous conseille de la regarder, ça vaut vraiment son pesant de cacahuètes, comme on dit vulgairement. Sinon, il y a également les 10 ans du Fou du Roi sur France 2. Hein, là, ça change radicalement de sujet. C'est l'émission de France Inter qui a lieu tous les jours.
Oh non, vous pouvez pas.
Qui a lieu tous les jours de 11h jusqu'à 1h de l'après-midi avec Stéphane Bern et tous ses chroniqueurs.
Tu es en train de sauter le jeu des 10 000 euros là.
Et là.
C'est
12h45. Ouais, 12h45, enfin bref. Là, bien, pour fêter les 10 ans de cette émission, eh bien, il y aura une émission spéciale sur France 2 mardi prochain à partir de 22h50. Sinon, encore à la télé.
Il sera diffusé le lundi sur France Inter.
Ouais, c'est ça. C'est, ouais, t'écoutes France Inter toi aussi.
Bah, je rappelle que c'est la radio la plus écoutée par les animateurs de radio éphémère.
Tiens, bizarrement.
Devant éphémère.
Ouais, bah, un peu obligé, c'est dirigé vite par fait. Un démocrate de gauche, un grand patron de presse de l'opposition.
Ouais, ouais. Bon, vite fait, alors, un guest starring spécial ce soir après la finale de foot sur TF1, c'est New York Unité Spéciale avec rediff de deux épisodes qu'on a déjà vus. Par contre, ce sont des épisodes qui sont pas mal. Le premier parce qu'il y a un casting de béton. Hein, Le Fugitif saison 5 avec Fionnuala Flanagan, Milo Ventimiglia, Nancy Allen, ça le fait déjà. Et le deuxième, Dangereuse Initiation avec Serena Williams et Gary Cole. Et alors je vous dis tout de suite, je l'ai vu deux fois cet épisode. Pourquoi ? Parce que Serena Williams, tu la vois tout au début vu que c'est elle qui crève. Et après tu vois juste une photo dans l'enquête.
Pourquoi tu l'as vu deux fois alors ?
Ben parce que la première fois je l'avais loupé. Faut regarder les images avant le générique, tu vois. Sinon tu la loupes, c'est pas la peine. Ok. Et
d'ailleurs, si vous avez des loisirs à faire, que vous êtes traîné du côté de Burbank, si vous voulez jouer le rôle d'un cadavre dans la série Les Experts, sachez que vous serez défrayé à hauteur de, je crois que c'est $150.
À Burbank ?
Oui. Tiens, c'est tourné à Los Angeles.
Il vaut Burbank, une fois pas... les studios Warner, bien sûr. Alors les films
non,
à la télé.
Non, il y a aussi Universal là-bas.
Les films à la télé. Alors ce soir sur France 4, Mammouth, la résurrection. Non, c'est pas Mammouth le film qui vient de sortir. Oui. C'est Mammouth, la résurrection de Tim Cox avec Vincent, 7 jours pour agir, Ventresca et Summer Glow.
Elle joue encore une danseuse.
Non, je crois pas. Non, je crois pas. Demain, Canal Plus vous propose une soirée Manchester Cantona avec à 20h50 Looking for Eric, le Ken Loach qui est sorti en 2006, suivi d'un documentaire à 22h40 Looking for Manchester, produit par Eric Cantona, avec Eric Cantona qui retourne à Manchester pour analyser l'opposition entre City et United à l'occasion du derby. Et donc il va interviewer des fans des deux camps et tout.
Oui, les riches depuis quelque temps et les nouveaux riches.
Voilà, c'est ça.
Et donc Suzanne, tu avais relevé sur Looking for Eric,
moi,
tu as vu le film.
Moi, je l'ai vu, il est génial ce film. Vraiment, ça m'a scotché, vraiment super.
OK, bah
nous on l'a pas chroniqué, on l'a pas vu alors, désolé.
Sinon demain soir sur RTL9 également Obsession Fatale de Jonathan Kaplan avec Kurt Russell, Ray Liotta et Madeleine Stowe. Ray Liotta qui joue le rôle d'un flic un peu trouble et tout, qui vient s'immiscer dans la vie du couple de Russell et de Stowe après un cambriolage et tout. Et là Liotta il montre que il sait parfaitement jouer ce genre de personnage trouble, ambigu comme ça, hein.
Il a la tête pour aussi.
Ouais, il a la tête pour aussi. Mais là, bon, vraiment, il le fait bien. Ça vaut le coup. Sinon, sur Direct 8, c'est soirée western avec Alamo. Remember Alamo. Là, c'est la version de John Wayne en 60 avec Richard Widmark. Et la queue de castor, là. Non, la queue de... Bah ouais, il joue David Crockett, donc forcément quoi. Et à 23h30, Les Implacables, dont le titre original est The Tall Man, de Raoul Walsh avec Clark Gable, Jane Russell, Robert Ryan, Cameron Mitchell, ça vaut le coup, c'est pas mal, c'est un bon western de 1955. Sur 13e rue, sans mobile apparent, de Philippe Labro en 72. Mmh. Ah bah ouais, oh bah ouais. Pourquoi ? Parce que c'est l'adaptation d'un roman de Ed McBain, Les Chroniques du 87e District, où Jean-Louis Trintignant joue le rôle de Carella. Et là, bah, c'est le Steve Carella, l'inspecteur hein, de tous les bouquins d'Ed McBain. Et là, c'est délocalisé sur la Côte d'Azur. C'est assez rigolo. Parce que ça se passe normalement à New York. Et là, et c'est assez bien foutu.
C'est bien transcrit. C'est assez lumineux, justement. Ouais, il y a une ambiance qui est vraiment fun.
Ouais, hein, avec également Dominique Sanda et Sacha Distel. Souviens-toi, Chantal Nobel. Chantal Nobel. Bon, ok, laisse tomber. Sur Ciné Cinéma Club, demain soir, un des derniers bons films de Wim Wenders, Les Ailes du Désir en 87 avec Bruno Gantz, magnifique, Solveig Don Martin, qui sait très bien monter sur un trapèze, et Peter Falk. Comme d'habitude, excellent. Sur Orange Ciné Novo, et ça j'en profite parce que t'es là et que tu m'as dit que tu avais Orange, donc que le spectacle commence demain soir à 20h40. Palme d'Or à Cannes en 1980, c'est un Bob Fosse de 1979 avec Roy Scheider, Jessica Lange, qu'on savait pas qui c'était à l'époque, et puis elle est magnifique, elle est radieuse, excellente quoi, et Leland Palmer, Roy Scheider, excellent. Non mais j'ai flashé sur ce film dont le titre original est All That Jazz. Qui raconte l'histoire d'un metteur en scène qui va monter une nouvelle comédie musicale à New York. Et mais c'est très fort, c'est vraiment très très fort. Hein. C'est vraiment superbe. Lundi sur Arte, alors là c'est carrément étonnant. Arte qui programme dans le lundi soir, c'est les grands chefs-d'œuvre du cinéma et tout.
Oula.
Un board, Le Fils du Désert. Three Godfathers en fait, avec John Wayne, Pedro Armendáriz et Ward Bond. John Ford qui a fait également la même année en 48 Fort Apache, hein, qui est vachement plus connu quoi. Ça raconte l'histoire de trois branleurs dans le désert et tout, qui trouvent une nana qui est en train de crever et qui a son petit gamin quoi, et qui donc confie son gamin aux trois mecs pour qu'ils prennent soin de lui. Mais bon, c'est un petit peu Trois Hommes et un Couffin, mais vachement longtemps avant quoi, tu vois.
D'accord.
Et ben bon, ça vaut le coup quoi, c'est pas mal aussi. Sinon sur RTL9 lundi, Starman de Carpenter avec Jeff Bridges, Karen Allen et Richard Jekyll. Et il y a également un autre man sur TMC, c'est Shadow Man.
Attends, sur TMC tu m'excuses, mais
Michael
là
Koch. À l'aise.
Rock and roll. Alors vas-y, redis-le.
Starman, Shadowman de Michael Koch avec Steven Seagal. Michael Koch qui est d'ailleurs le réalisateur attitré de Steven Seagal sur au moins une 5 ou 6 bouses que Steven Seagal nous sort depuis début des années 2000. Hein. Ça, il n'y a pas de problème.
Ouais, quand il est gros, quoi.
Oui, quand il est gros, tu bouges plus, quoi.
Oh, s'il vous plaît, s'il vous plaît.
Il n'y a pas de problème, hein, de toute façon. Sinon, on préférera bien sûr sur Polar, lundi à 21h, le démon de la chair, The Strange Woman, avec Eddie Lamar et George Sanders, un Edgar George Ulmer de 46, qui s'appelait d'ailleurs Edgar George Ulmer, autrichien, 1972. C'est lui qui nous fait Black Cat en 1934, la rencontre au cinéma, la première rencontre au cinéma entre Bela Lugosi et Boris Karloff.
Ah,
et c'est lui qui nous fait également un Barbe Bleue pas mal en 44 avec John Carradine, c'est-à-dire le papa, dans le rôle titre, qui fait également, il est surtout considéré comme étant un réalisateur mineur parce qu'il a fait que des espèces de films série B, série Z, tels que The Man from The Planet X en 51, ou alors Babes in Baghdad, hein, tu vois un petit peu le genre de film quoi, en 52. Mais enfin bon, le démon de la chair est quand même assez intéressant, surtout parce que Eddie Lamar joue le rôle d'une croqueuse d'homme, une nana qui est que sert des hommes pour arriver à ses fins, genre si tu tues mon père je coucherai avec toi, enfin des trucs comme ça. Bon, ça c'est assez chaud quoi, pour l'époque du moins. Sur TCM lundi également, Point Blanc ou Le Point de Non-Retour, John Boorman en 67, excellent, avec Lee Marvin et John Vernon. Boorman, dont c'est le deuxième film, hein, le premier un petit peu plus méconnu, c'est Catch Us If You Can, mais après Boorman, jusque dans les années 80, il a fait que des tueries, que des chefs-d'œuvre. Duel dans le Pacifique en 68 avec Lee Marvin et Toshiro Mifune, Léo de The Last en 70, Délivrance en 73, Zardoz également, que moi j'aime bien, quoi, L'Exorciste 2.
Zardoz, tu aimes bien?
Ah ouais, franchement, moi j'apprécie, quoi, franchement.
Et bon, bien sûr, un double 07 en string.
Ah non, mais ça vaut le coup, vraiment. C'est, moi, je
et tout poil dehors.
Ouais. Il est velu l'animal. Hein. Et c'est tout pour lundi. Mardi.
Non, c'est pas tout pour lundi. Je te rappelle, mon cher ami.
Allez, vas-y.
Hein, que sur TCM, ils ont fait. Sur TMC, ils ont fait très fort. Donc Shadowman, on est d'accord.
putain, mais en fait, c'est la souris qui est morte, voilà. Il y a Seven Seagulls, un Wesley Snipes à partir de 22h20. Ensuite, il y a La Sentinelle avec Dolphin Lundgren. Et ensuite, il y a un porno.
Ouais, enfin, voilà. Un film érotique.
Un film érotique. Mais je pense que là, on va se faire une soirée pizza au hamburger. Enfin, un truc bien, bien crade.
Alors, c'est le retour mardi.
La copine, elle prépare.
C'est le retour mardi. Ce film qui était cantonné aux chaînes du câble, aux chaînes du satellite, aux chaînes mineures. Eh bien, se retrouve sur Canal Plus Family, le chat qui vient de l'espace.
Oh non, de Norman Tocard.
Appelez Sébastien Langevin, vite.
Avec Ken Berry, Sandy Duncan et Roddy McDowall. Canal Plus Family, c'est mardi à 20h45.
Tu sais que ça faisait hyper longtemps.
Ça faisait longtemps, mais je l'ai retrouvé.
Ça faisait hyper longtemps que tu l'avais
pas senti. Attends, est-ce que si tu fais Chichen Chong aujourd'hui, tu vas faire un doublé?
Non, j'ai pas le Chichen Chong. RTL9 vous propose également mardi Darkman de Sam Raimi avec la Minison et Colin Frins Frances McDormand. Et sur Polar, deux bons polars à 21h tout d'abord mardi prochain. Numéro 17, un Hitchcock de la période anglaise en 32 avec Leo McLean et John Stewart. Très court, hein, il fait 1h05. Et après, un Orson Welles que personne ne connaît. Hein, c'est son troisième film après Citizen Kane et La Splendeur des Ambersons. Moi, je sais pas, mais j'ai toujours préféré les Ambersons à Citizen Kane. Mais enfin, c'est mon avis très personnel. Qui s'appelle Le Criminel, dans lequel il interprète le rôle d'un criminel de guerre nazi qui vient se réfugier dans une petite ville américaine. Donc, planqué, paumé, comme ça. Et donc, c'est l'excellent Edward G. Robinson qui joue le rôle de l'inspecteur qui va démasquer le méchant nazi. Et également Loretta Young dans ce film d'Orson Welles qui date de 45. Mercredi sur RTL9, 22h40, La chair et le sang de Verhoeven. Ouais. Rutger Hauer. Ouais.
Long Jennifer Life. Jason.
Ouais. Et sur NT1, c'est la daube du mercredi.
Ah, fais-nous rêver.
Méga cyclone de Philippe Giraud, l'homme qui nous avait sorti l'attaque des requins. Shark Attack. C'était pas l'attaque des requins tueurs avec Corinne Nemec, c'était Shark Attack. Et puis après, les requins qui reviennent et tout. Et là, en 2003, c'est méga cyclone avec Dale Midkiff excellent et Michael Ironside.
Ah, bah oui.
Ah ouais.
Et heureusement que les effets numériques ont fait des progrès.
Mercredi prochain, 20h45, Intuition de Sam Raimi avec Cate Blanchett, Giovanni Ribisi, Kenny Reeves et Cathy Holmes. Ouais. Sur Canal Jimmy, Jusqu'à la mort de Simon Fellows, le mec qui nous fait le truc lundi soir avec Wesley Snipes, c'est le même Simon Fellows qui lui, c'est le réalisateur attitré des JCVD, puisqu'il y a JCVD dedans, Stephen Ree et Mark Diamond. Et sur Ciné FX à 21h, L'Exorciste, la suite de William Peter Blatty en 90. William Peter Blatty, le mec qui a écrit le livre L'Exorciste, qui a été adapté au cinéma par Friedkin. Et Blatty a toujours fait la gueule parce qu'il estimait que son bouquin n'avait pas été suffisamment bien rendu. Et donc là, il propose plus ou moins ce qui s'est passé après L'Exorciste, mais en essayant de prendre les bases de sa mythologie personnelle. Et donc c'est lui qui réalise avec George C. Scott, Ed Flanders et Brad Dourif. Sur Orange Ciné Géant également, mercredi prochain à 20h40, le gang des frères James, le Walter Hill de 1980 avec James Kitsch et toute la famille Carradine, Robert, David et Kiss, pour jouer le rôle de frangin, c'est impeccable, hein. Jeudi sur Paris Première, Les Autres de Alejandro Amenábar en 2001 avec Nicole Kidman et Fionnula Flanagan, entre autres, on la retrouve. Et sur TF6 à 22h25, jeudi prochain, Double Team de Choi Ark en
1996. Ouais!
JCBD, Rules, Michael Rourke.
Ouais!
Et je me demande s'ils sont pas trompés, si c'est pas Michael Rooker.
Non. Double Team, c'est Mickey Rourke et Dennis Rodman. Mickey Rourke qui s'est tué par un tigre.
Et Philippe Nicolic.
Philippe Nicolic. Non, Double c'est Team. Simon 16.
Simon 16, oui, avec Dennis Rodman, ouais, c'est vrai. Oui, ça c'est celui où ça se termine dans un cirque là avec le tigre et tout.
Au Colisée, oui.
Au Colisée, ouais.
Avec des bruits partout.
Bon, après avoir parlé de chef-d'œuvre du cinéma, un film tout à fait ordinaire sur TCM, deux films ordinaires sur TCM, Belle de jour de Louis Buñuel avec Catherine Deneuve, Jean Sorel, Michel Piccoli et Macha Merrill quand elle était jeune et puis qu'elle était appétissante.
C'est le jeudi, donc c'est les films à scandale.
22h25, La Chasse, Cruising en version originale, c'est le William Friedkin avec Al Pacino qui infiltre le milieu gay cuir. C'est pas mal, c'est...
couillu.
Ouais, bon.
Hein, ça bande des muscles. Hein.
Oh là là.
Ça bande des muscles.
Hein. Il s'arrange pas, lui. Hein. Ouais, non, non. Ouais. Vendredi, France 2, un téléfilm inédit dans la case polar du vendredi soir. Elisabeth Rapneau, Quand vient la peur. Avec Sophie Quinton, Grégory Fitoussi, qui est excellent dans Engrenage, hein, la série de Canal+. Canal, ouais. Pascal Elzo et Lionel Astier, le papa d'eux. Oui. Hein, et qui nous raconte une histoire de meurtre en Charente-Maritime au début des années 70 et qui s'attache autant à l'enquête que à la réaction des gens dans cette petite ville paisible et tout, et puis qui nous décrypte un petit peu ce qui peut se passer hein, dans la tête des gens, quoi, et comment les gens peuvent déraper hein, quand ils sont confrontés à quelque chose qui donne, ils s'attendent à laquelle ils s'attendent pas du tout. Sur Arte à 0h25 vendredi prochain, l'attaque de la Moussaka géante, mon gars.
Encore et... un film grec avec une certaine enfin pardon
et
RTL... face à lui quoi hein.
Et c'est le vendredi grave. Soir sur RTL 9 en deuxième partie de soirée, on avait eu les classiques du cinéma hongkongais, puis quelques petits films thaïlandais. Et bien on retourne aux classiques du cinéma de baston chinois avec Le Combat des Maîtres de Liu Chelang en 76 avec Gordon Liu, Chen Quan Tai et Ricky Hui, ainsi que Liu Chelang bien sûr hein, là bon ok c'est du bon il n'y a pas de problème.
C'est le cinéma club des plus grands chorégraphes de la colonie, de l'ex-colonie britannique.
Ouais, ouais. Avec sur Ciné Cinéma Club à 21h, Un justicier dans la ville de Michael Winner. Ouais, Charles Bronson, excellent. Et Vincent Gardenia. TCM vous propose à 22h, vendredi prochain, Easy Rider de Denis Hopper en 69, Palme d'Or à Cannes.
D'ailleurs, j'ai été un petit peu déçu parce qu'ils ont voulu absolument mettre le générique français et la pellicule dans super mauvais état.
Ah bah ouais bah.
Mais après heureusement ils repartent sur un master qu'ils ont. Mais ça écouté en VO, c'est assez. Il y a pas mal d'expressions, de non-dits et tout ça. C'est vraiment intéressant.
Ouais. Sur Polar. Bien. Sur Polar à 21h vendredi prochain, Meurtre au chenil de Michael Curtis en 1933, The Kennel Murder Case avec William Powell, ouais, Maria Storm, ouais, qui interprète le rôle d'un détective qui était vachement connu à cette époque-là, Philo Vance, et qui a précédé en fait toute la vague des détectives au cinéma dans la période dorée du polar américain, à savoir les Sam Spade, à savoir les Philip Marlowe, interprétés par Bogart et bien d'autres. Là, ben, Philo Vance était le détective des années 30. Donc,
le maître étalon.
Il y a une série d'au moins 6 ou 7 films avec William Powell dans ce rôle-titre, ce qui lui a valu d'ailleurs ben, une célébrité qu'il méritait de toute façon. Hein. Michael Curtis, hongrois, né Mihaly Kertész, en 1888, mort en 62, commence à faire des films en Hongrie de 1912 jusqu'en 1919, puis il part en Autriche de 1919 à 1925. 1925, il émigre vite fait en Allemagne, puis tout de suite, il se tire aux États-Unis, et là, il devient Michael Curtis. Michael Curtis, connu bien entendu, Captain Blood en 35, Robin Hood, Errol Flynn en 38, Angels with Dirty Face en 38. En 38, il fait 4 films quand même, hein, tu vois, dont Robin Hood et Angel with Dirty Face. Bon, le Robin Hood, il l'a fait avec William Kitley, il l'a pas fait tout seul, d'accord. L'Aigle des Mers avec Brut Lancaster en 40, Casablanca avec laisse tomber quoi, la distribution comme ça, tu peux plus avoir maintenant, c'est impossible. King Creole, le meilleur Elvis Presley en 58. Et Comanchero, un de ses derniers films avec John Wayne en 61. Alors, un chapeau quand même, monsieur Curtis.
On avait parlé récemment d'ailleurs.
Ah ouais, ouais, non, mais bon, laisse tomber quoi. Sur Orange Ciné Géant, le vendredi prochain à 21h, Pierrot le Fou de Godard. Bon, rien à dire, hein, c'est certainement un des meilleurs. Moi, je préfère ce film à bout de souffle. Hein. Bon, bah, ok.
Tu as pas encore vu Socialisme
hein. Ouais, bon, bah, laisse tomber, quoi. Avec Jean-Paul Belmondo, Anna Karina et Dirk Sanders. Et pour terminer, eh bien, on se termine sur XXL à minuit avec Crème et Chocolat.
Évidemment, puisque c'est vendredi.
Ah ouais.
Voilà. Quelle honte. N'ayez pas honte, franchement. Thomas, tu sais, il y en a, ils nous écoutent sur la bande FM, ils nous écoutent sur le stream, et les pauvres, ils doivent se dire, mais qu'est-ce qui se passe le vendredi sur la chaîne XXL pour qu'ils soient comme ça? De quoi est-ce qu'ils ont causé encore aujourd'hui? J'ai manqué le début.
Oui, tout à fait. Aujourd'hui, c'était la 240e émission. Il était question d'un papa du petit enfant huître, des héros pour l'UNICEF, un Frédéric Lefebvre barbu, un milliardaire à répulseur des Stones et de l'Héros, une femme qui accouche enceinte, un bouquin culte pour tous les défoncés, le retour de Berlin Brigade Criminelle, le Danemark, qui donne envie, du quelques mini-biographies, trois cow-boys et un couffin, du string velu, le retour du tocard, un méga-cyclone et sa bande des muscles.
Frédéric Lefebvre barbu, on va avoir des emmerdes, nom d'une fatwa. Ils ont manqué tout ça. Heureusement, grâce à la diffusion différée, vous pouvez réécouter l'intégralité de cette émission et aussi retrouver les chroniques écrites, même si en 15 jours, quand même, on a un petit peu pris des vacances. Y'a pas. Fouiller dans nos archives, jouer à des quiz stupides, nous écrire, laisser vos commentaires, nous insulter, nous soutenir, tout ce que vous voulez, poser vos questions, n'hésitez pas, il suffit d'aller sur le site web supplémentweekend.fr, supplémentweekend.fr, sans accent ni tiré, y'a pas de souci. Vous écoutez FMR sur 89,1 MHz, nous sommes en direct et en alternance avec Booster FM qui prend l'antenne à partir de 17h et en continu 24-24 sur radio-fmr.net. Dans le prochain épisode
du
Rolling Stones.
Oui, et il sera question de tir à l'arc.
Et moi j'ai encore autre chose. On verra ça. On se retrouve la semaine prochaine, même en même fréquence. Ciao, bye bye.
Ciao.
Et de suite, 13h45 du sport.